Bonjour. Bon. Bonjour. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va bien? Pouet, pouet, pouet. Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir. Beau soleil. Ouais, il fait beau dehors, c'est cool, hein. Attendez, je répondais. Oui, très bien. Oui, très bien. Voilà. Voilà. Excusez-moi, je signe des tribunes sans les lire. Ça va, on rigole. C'est bon. C'était pas ce soir, c'est à vous. Non, 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 c'était pas ce soir. En fait, là, je reviens de l'émission C'est à vous, dont on a fait le tournage, mais c'est l'émission de lundi. Lundi de Pâques, c'est lundi férié. Donc, ils font pas d'émission le lundi, donc ils la tournent le vendredi d'avant. Voilà. Et moi aussi, je croyais que c'était. En fait, j'en savais rien. Ils m'ont invité, j'ai dit ouais, j'arrive, j'arrive. Et j'ai pas posé la question, et quand on est arrivé, ils m'ont dit ah oui, attention, ce sera diffusé lundi. Ah bon, d'accord, ok. Voilà. Et il y avait Monsieur Étienne. Ouais, on était avec Samuel Étienne, qui fait l'hebdo Étienne ce soir d'ailleurs. Donc ouais, on était avec Samuel Étienne, on a parlé de Twitch. Bah vous verrez lundi, hein. On a parlé de Twitch, la plateforme préférée des jeunes, qui réconcilie les jeunes avec la... C'est vous les jeunes, hein. Avec la politique. Et c'était cool. En vrai, c'était bien, c'était bien. Ils m'ont pas fait l'interview de merde. Vous gagnez de l'argent? Comment vous gagnez de l'argent? Et l'argent alors? Non, ils m'ont pas posé cette question. Ils m'ont pas non plus fait le coup de... Ah, les réseaux sociaux, il y a un peu tout et n'importe quoi. C'est un peu la Russie. C'est un peu les anti-vax. C'est un peu le complotisme. Non, ils m'ont pas fait ça non plus. Ils m'ont pas fait non plus... C'est quoi les autres merdes qu'on a d'habitude? Le jeu vidéo, ça rend violent et addict. Non. Non, 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 c'était vraiment chouette. C'est Anne-Elisabeth Lemoine qui anime. Voilà, il y avait Patrick Cohen, il y avait Pierre Lescure, voilà. Et on a parlé d'Ito du coup, on a parlé d'Itorial. Donc voilà, c'était bien. Pourquoi vous invitez pas l'extrême droite? Ça fait combien de temps? Pourquoi ça marche? Comment ils sont les politiques? Enfin, oh, non, c'était bien, c'était bien. Bien manger. Non, en fait, on bouffe pas hein, sur le plateau. Moi, je croyais. Hein, parce qu'il y a un chef qui cuisine sur le plateau. Moi, je me suis dit, on va bouffer un morceau. Si ça se trouve, le mec, il cuisine bien. Et non, non, on n'a rien bouffé. Très triste. C'est diffusé quand? Lundi. Lundi, 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 lundi. Lundi qui vient. Donc, c'était chouette. T'as vu les deux demi-frères Lescure en moins de 24 heures d'intervalle? Oui, du coup j'ai vu Lescure et Lescure. Et donc effectivement ils sont bien de la même famille. Oui, demi-frères. Voilà. Pierre Lescure, Roland Lescure. Donc Pierre Lescure qui est l'ancien patron de Canal+. Grand homme de médias. Voilà. C'est les invités de seconde partie qui mangent. Ah d'accord. Ah bah bon, bah voilà, moi j'étais invité de première partie. Bah du coup j'ai rien bouffé. C'est pas grave, hein. Il a travaillé au Festival de Cannes. C'est très possible. C'est très possible, oui, c'est très possible. Comment ça se passe la transition Utip? Eh bah écoute, ça se passe bien. Ça se passe bien, on a ouvert une cagnotte sur KissKissBankBank. Et je suis très heureux de vous annoncer qu'il y a déjà la moitié des gens qui faisaient un don régulier sur Utip qui ont transféré leur don régulier sur KissKissBankBank en 2 jours. Je suis trop content, merci 1000 fois, merci pour votre soutien, c'est trop bien. Je vous avais dit que ma trouille à moi c'était de perdre des gens en cours de route parce que bah, c'est normal, on change de plateforme, c'est compliqué, etc. Il y a déjà la moitié qui a remis en place un don régulier pour soutenir Baxit sur KissKissBankBank. Trop bien, merci. Vous êtes vraiment au top, vous êtes incroyable. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Donc voilà, donc on continue. Donc voilà, KissKissBankBank maintenant, ce sera sur KissKissBankBank pour soutenir Baxit. Et on a encore besoin de récolter 100 000 euros pour arriver jusqu'à la fin de la saison Baxit. Voilà. Pourquoi est-ce que tu as changé de plateforme? Parce que Utip a fermé. Utip a fermé ses portes mardi. Le shop, ça en est où? J'ai pas eu le temps d'avancer. Là, je vous cache pas que hier j'étais sur Baxit, mercredi j'étais sur Baxit, aujourd'hui j'étais sur C'est à vous, et puis après j'ai eu un rendez-vous. Donc on est dessus. On est dessus. Je donnais pas encore sur Utip, mais je me suis greffé sur KissKiss. Et j'en profite pour te dire merci pour le travail que vous avez fait. C'est très gentil, merci à toi, merci à toutes les personnes qui font des dons. On a besoin de vous. Donc voilà. Comment s'est passé, c'est à vous. Ça s'est bien passé, non, non, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, ce sera diffusé lundi. Voilà, donc c'était pas aujourd'hui. Je croyais que c'est aujourd'hui, mais en fait, non, non, ils enregistrent l'émission de lundi, puisque lundi c'est férié. Voilà. La télé, ils font ça, on appelle ça un faux direct. Donc c'est enregistré dans les conditions du direct, mais c'est diffusé plus tard. Voilà, c'est un faux, ça s'appelle un faux direct. La télé est habituée à faire ça. Est-ce que tu t'es inspiré de C'est à vous pour créer Baxit? Non, non, je connaissais même pas C'est à vous. Je suis pas inspiré. Je me suis pas du tout inspiré de la télé de manière générale pour créer Baxit. Je me suis beaucoup inspiré de Popcorn, mais je me suis pas inspiré de. Non. Mais d'ailleurs, enfin, C'est à vous. Bah là, j'étais sur le plateau, j'en reviens. C'est vraiment de la télé, quoi. C'est-à-dire que tu as tout cassé 5 minutes de temps de parole. C'est pas grave, hein, c'est un exercice particulier. Voilà. Donc c'est 1 heure et demie de tournage pour 5 minutes de temps de parole. Bon, bah c'est comme ça. Tu t'es inspiré de C'est ce soir avec Karim Rissouli? Non plus. T'as mis ta plus belle chemise. Non, 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 j'y suis allé en t-shirt comme un connard, mais j'ai mis un pull noir. Voilà, j'avais que ça. Sinon, c'était un gros sweat de couleur. Je me suis dit que pour la télé, ça risquait de faire un peu trop jeune. Du coup, j'ai mis un pull noir, tout à fait sordide. Question bête, est-ce que c'est rémunéré les passages TV? Non. Non, non. Alors, dans les médias, la pratique est assez simple. On ne rémunère jamais un invité. Un invité qu'on invite dans une émission vient gratuitement. C'est la garantie de la liberté de sa parole. On ne paye jamais un invité puisqu'on l'invite à venir s'exprimer, donc il n'est jamais rémunéré. On peut prendre en charge ses frais de déplacement pour l'amener jusqu'au plateau, par exemple les taxis. Traditionnellement, c'est un peu ce qui se fait. Donc on envoie un taxi pour que la personne puisse venir sans que ça lui coûte quoi que ce soit. Ça a aussi un avantage d'envoyer un taxi. On fait pareil hein, sur Baxit. Enfin, on fait pareil. Ça dépend. On peut faire pareil. Ça permet aussi de garantir que la personne arrive à l'heure. C'est con, hein, mais c'est. Les gens qui disent ah, je suis dans le métro, je suis en retard. Bah ouais, mais l'émission elle est en direct, donc en fait ça nous arrange pas trop que ce soit en retard en fait. Donc du coup, le taxi ça sert aussi à ça. En revanche, ce qu'on appelle les chroniqueurs, qui sont en plateau régulièrement, eux ils sont rémunérés à une chronique. Et c'est en contrepartie du travail de préparation qu'ils font. Et de présence régulière, etc. Donc on requiert de leur part un travail et une présence. Et on dédommage ça avec une rémunération. Donc les chroniqueurs sont rémunérés, les invités ne le sont jamais. Voilà, et c'est pareil sur Brexit. Voilà comment ça marche. Le ministre a eu un taxi. Non, les ministres, ils ont un chauffeur, donc c'est pratique, c'est pas cher. Toutes les 2 semaines, vous envoyez un TGV à Usul. On prend les frais, on prend en charge dans le financement de Brexit, c'est prévu, les frais de transport d'Usul. Oui, on paye le train à Usul, bien sûr. Et il dort à la maison. Parce que l'année dernière, on avait des frais d'hôtel pour Usul. Mais bon, comme on finissait tous les jeudis à la maison à boire des coups, bah, il dormait toujours à la maison. Donc ça ne servait à rien de payer un hôtel. Qu'on a dit, bon, hey, on est d'accord que cette année tu dors à la maison, mais ouais, c'est vachement plus simple, c'est plus sympa. Donc voilà, donc il dort à la maison. Voilà. Et du coup, évidemment, bah, hier, Usul nous a envoyé un texto en disant, ouais, c'est la merde, je sors de la manif, mais il n'y a pas de métro parce que manif, et donc du coup, je vais rater mon train. Comment je fais? Peut-être que je vais pas pouvoir venir. On était en mode, oh, merde, il va falloir qu'on remplace Usul à la dernière minute. Et finalement, on a changé son billet de train, on lui en a pris un dans le train suivant, donc c'est bon. Voilà. Il a chopé son train. Tout va bien. Comment va le chat? Est-ce qu'elle est toujours Est-ce qu'elle signe toujours ton tapis? Oui. Le chat va bien, je la vois toujours pas. Elle est toujours cachée dans la cuisine sous l'évier. J'ai rajouté une deuxième litière sur le tapis, là où elle chie d'habitude, pour lui dire, regarde, c'est là qu'il faut chier en fait, c'est dans la litière, c'est pas sur le tapis. Et elle a compris visiblement parce qu'elle a chié dans la litière. Donc c'est bien. Voilà. Donc pour l'instant, on communique à base de litière. On se comprend, visiblement. Les messages sont émis, sont reçus. Donc on est sur un début de relation finalement. Et hier, pendant Backseat, du coup, comme j'étais pas chez moi, avant de partir pour Backseat, j'ai mis une caméra de surveillance dans ma chambre parce que je voulais voir si elle va dans ma chambre ou pas. Et qu'est-ce qu'elle fait si elle va dans ma chambre et tout? Et effectivement, j'ai eu des images. Elle va bien dans ma chambre quand je suis pas là. Donc je suis trop content. Et elle monte sur le lit. Elle est montée sur le lit. Je suis trop content. Elle est montée sur le lit. Donc j'ai une petite vidéo du petit chat qui descend du lit et qui se barre. Je me suis dit, oui, elle est montée sur mon lit, c'est trop bien. Est-ce qu'elle a pissé sur le lit? Non. Ou alors j'étais trop bourré, je m'en suis pas rendu compte, j'ai dormi dans la pisse. Comment fait-on maintenant pour prendre des places dans le public de Backseat? C'est une excellente question, je te remercie de me la poser, j'en sais rien. Non, je déconne pas, je sais pas, on est en train d'essayer de trouver une solution. Il fallait que j'envoie un message d'ailleurs à Thomas, il est où Thomas, il est où Thomas? Quelle solution facile on peut avoir pour vendre des places selon toi? Je sais pas, j'ai pas la réponse et c'est chiant. Ça fait partie des problèmes qu'on a en ce moment, je sais pas. Un milliard de trucs à gérer, mais voilà. C'est pour l'hygiène. Tu donnes l'adresse, on se ramène et les premiers arrivés ont une place. Bon, non, non, c'est relou. Y a Billet Réduc qui peut marcher pour les places. Je sais pas comment ça marche. Peut-être, non, mais peut-être, honnêtement, j'ai pas la solution. Ça se trouve, il y a un truc très facile à paramétrer et on va résoudre le problème en 1 heure et ça va être réglé. Ça se trouve, ça va être plus compliqué. Je sais pas. Je sais pas encore. Je vous tiens au courant. Voilà. Quid de la date limite associée au financement? C'est-à-dire la date limite. Nous, le but du jeu, c'est qu'on récolte encore 100 000 euros jusqu'à la fin de la saison, en fait. Parce que le but, c'est de financer la saison. Donc, le but, c'est d'arriver à 100 000 euros à la fin de la saison. Donc, challenge, c'est la fin du mois de juin. Voilà. C'est financé jusqu'à quand pour le moment? Alors, il faut qu'on refasse un point avec mes coproducteurs. Parce que là, on a de quoi financer jusqu'à l'émission de la semaine prochaine. Et ensuite, on a eu le Bifor de Bouygues Télécom hier, qui va du coup nous permettre de respirer un peu et peut-être de financer une émission ou deux, je sais pas. Faut qu'on voit. Mais je sais pas quand est-ce qu'on sera payé. Enfin voilà, il y a des questions de facturation, c'est très con, hein, mais là, c'est des problèmes de trésorerie et tout. On attend aussi la réponse du CNC. Alors, les CNC, entre le moment où on a la réponse et le moment où on touche l'argent, je sais pas du tout combien de temps ça prend. J'ai peur que ce soit un de ces trucs administratifs pète-burnes où en fait t'attends 8 mois avant de toucher le pognon. Auquel cas, il faudra qu'on aille faire un prêt relais à la banque et tout. Oh putain, je sens que ça va m'énerver. Je sais pas, je sais pas, je sais pas combien de temps ça met le CNC à tomber sur le compte. Et ensuite, ensuite, on compte sur les prochains sponsors, quoi. En fait, c'est financer la saison en cours ou la saison suivante. Ah non, c'est la saison en cours là. Non, c'est la saison en cours. C'est quoi le budget environ par émission? Ah, c'est très précisément, c'est pas grosso modo, c'est 16 000 euros. 16 000 euros, c'est ce que nous coûte la production de chaque épisode de Backseat. Et le coût est réparti, c'est les salaires, hein, c'est les rémunérations des techniciens, de l'éditorial, l'allocation de la salle, l'allocation du matériel, l'achat des bières et des nems. Parce qu'il faut quand même vous filer à bouffer quand vous venez, c'est bien la moindre des choses, quand même. Vous venez vous coltiner une émission de 3 heures, on boit un coup. Le taxi pour l'invité, enfin voilà, tout ça, bah, tous les frais, quoi, donc voilà, 16 000 euros. Très bon nems d'ailleurs. T'as vu, ils sont bons, hein. En plus, on vous fait des nems végés et des nems avec du poulet. On a du houmous végé. On a. Oh, attends, on fait ça bien. Hein. On a des petites bières de qualité. C'est combien la place pour y assister? Pour assister à l'émission en physique, c'est 49,30 € de dons, en échange duquel vous pouvez venir dans le public. Le but étant bien de financer l'émission. Donc voilà. Et il y a dans le public, il y a 45 places, je crois. Ouais, ça dépend. Enfin, je crois qu'on avait augmenté, ouais, donc 45. Donc voilà. Est-ce que tu sais combien coûte une émission à la télé? Ça doit être plus cher. Oui, à la télé, il faut rajouter un zéro. À la télé, ça, c'est plus de 100 000 euros par émission. 150, 200, 300 000 parfois par émission. Ça dépend des émissions, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher à la télé, oui. Après, la télé, ils ont des frais d'infrastructure complètement délirants, ils ont des régies qui doivent répondre à des critères complètement barrés, l'infrastructure réseau est hors de prix. C'est émettre une chaîne de télévision sur la TNT, ça lui coûte chaque année en infrastructure, donc vraiment les câbles, les contrats qu'ils ont avec Globecast et tout, je rentre pas dans le détail parce que c'est un niveau technique absolument sordide, c'est 7 millions d'euros. Juste le coût d'entrée pour avoir une chaîne. Sans compter la production, c'est juste l'infra de diffusion. Tu rajoutes à ça les studios de tournage, les régies, etc. Alors là, tu montes dans des frais absolument délirants, mais bon, tu les rentabilises en produisant des émissions dessus. Donc voilà. Autant d'argent pour faire TPMP. Alors TPMP, c'est quotidien, non? C'est tous les jours l'émission TPMP. Parce qu'une émission quotidienne, ça coûte moins cher à faire, évidemment, parce que du coup, tu as des frais que tu amortis sur toutes les émissions. Oui, c'est tous les jours, donc voilà, donc TPMP ça doit coûter moins cher que ça. Je sais pas à combien ils s'en sortent, je connais pas hein, les budgets de TPMP. Les émissions les plus chères à produire, évidemment, ce sont les grands shows de type Prime de la Star Academy. Évidemment, match de foot, vous vous en doutez, il n'y a rien de plus cher qu'un match de foot. Le sport, en général, c'est très très cher, la captation, la diffusion, l'infrastructure, etc. Le Tour de France, je vous laisse même pas imaginer combien c'est le Tour de France. Genre, vraiment, là, tu dois déplacer la régie, les caméras, les hélicoptères et tout. L'Eurovision, évidemment, mais ça, c'est des trucs ponctuels, tu vois, c'est rare. C'est rare et ça se vend très cher, etc. TPMP, on est à 80 000 euros l'émission. Voilà, 80 000 euros l'émission pour TPMP. Mais c'est une grosse émission TPMP. Hein. Donc voilà. Donc nous, avec nos 16 000 balles, franchement, on n'est pas cher. Hein. Comme je le dis souvent, je suis le producteur le moins cher de Paris. €80 000 pour TPP, ça me paraît si peu. C'est une émission quotidienne, encore une fois, hein, c'est une émission quotidienne. Hein, donc, il faut amortir le coût sur toute la semaine. Hein. 80 000 euros par jour, du lundi au vendredi. Donc, tu fais x5 par semaine, tu fais x4 par mois, x12 par an. On est sur un budget. Non, c'est du solide. Hein. Tu estimes Popcorn à combien? Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je crois qu'ils sont comme nous, hein. Ils sont entre 15 et 20 000 euros par émission, Popcorn. Et le prix moyen d'une émission fait pas la qualité du contenu. 80 000 euros par jour pour TPMP, c'est quand même cher payé. Ah oui, non, mais ça, les coûts de production, ça n'a rien à voir avec l'éditorial. Hein. Vous pouvez faire une émission de merde à 80 000 euros, vous pouvez faire une excellente émission à 2000 balles. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'éditorial. Hein. Là, on parle vraiment des frais pour fabriquer l'émission, quoi. Zach Nani est un producteur moins cher que toi. Non, parce que Zach, je sais avec qui il travaille, et non, non, je te jure que non. Je l'embrasse, hein, d'ailleurs, Zach. Vive TPMP, vive Cyril Hanouna, vive le roi du PAF. Alors tu feras attention, il y a la touche caps lock de ton clavier qui est restée appuyée. N'hésite pas à regarder, il y a des petits témoins lumineux sur ton clavier pour te dire si la touche est enfoncée ou pas. Désolé, je débarque, tu ne devais pas être sur Cet à vous ce soir. Non, en fait, le tournage était aujourd'hui de Cet à vous, mais ce sera diffusé lundi. Ils enregistrent le vendredi d'avant l'émission du lundi, parce que lundi c'est férié. Voilà. Je l'ai appris en arrivant sur le plateau, hein, je ne le savais pas. Donc là, on a fait le tournage, vous verrez lundi. Tu ferais quoi dans Backseat avec 80 000 euros par émission? Je sais pas. Non, c'est beaucoup trop d'argent, 80 000 euros par émission, parce que moi, Backseat, c'est déjà l'émission idéale telle que je la voulais. Peut-être que je prendrais un studio plus grand pour avoir plus de gens dans le public. Parce que c'est trop bien le public et je suis trop content de vous rencontrer et tout, mais c'est la seule jauge d'amélioration, tu vois. En vrai, ouais, je rajouterais des cams. Ouais, je rajouterais des cams, parce que moi, je veux toujours des cams. Je veux plein de cams, je veux des cadreurs volants. Non, mais alors, c'est vrai, si tu veux rentrer dans le détail, j'adorerais avoir une caméra sur une grue. J'adorerais avoir des cadreurs volants. Ce qu'on appelle un cadreur volant, c'est une personne physique qui tient une caméra et qui peut se déplacer pour faire des plans un peu cool. Genre, il se met à genoux par terre et puis il fait un plan depuis le sol, il se met dans le public et puis il fait un plan cool, on voit l'arrière des visages, on voit l'arrière des têtes des gens dans le public. Enfin bon, oui, je sais pas, si j'avais 80 000 euros par émission, on rajouterait peut-être des séquences tournées. Alors ça coûte très très cher à faire ça, mais c'est envoyer un journaliste dans les manifs, par exemple, avec une caméra backseat, qui irait faire des images en manif et on les montrerait le soir. Enfin là je parle des manifs parce que c'est le jeudi, backseat, les manifs et tout, mais enfin faire des images d'actu. Mais c'est très très cher. Enfin, oh là, faut payer le déplacement, la bagnole, le cadreur. Oh là. Mais on n'ira jamais jusqu'à 80 000 euros par émission. Hein. Je vois pas l'intérêt. Est-ce qu'on peut travailler pour Backseat quand on est intermittent de l'audiovisuel et si oui, à qui s'adresser? Bah oui, tu peux. Oui, tu peux. Mais là, pour l'instant, l'équipe est au complet. On recrute pas. Mais la boîte de production que j'ai chargée de la fabrication de l'émission d'un point de vue technique s'appelle Gozulting. Ils sont spécialisés dans Twitch. Donc ils font que des live Twitch. Voilà. Gozulting, Célébro. Avec Yamato et Kaoru. Ouais. Ils font aussi Game of Roll, ils font aussi Speedon, ils font plein de trucs. Patrick Cohen a été gentil ou il t'a mis la pression? Ah, tu verras lundi. Il m'a repris. Parce que j'ai dit une connerie. Enfin, j'ai dit une connerie. Il m'a dit que j'avais tort. Vous verrez, vous verrez. Il faudra qu'on revienne dessus parce que c'était intéressant. Qu'est-ce qui change d'une émission TV classique? C'est toi la différence. C'est toi. C'est ça la différence avec la télé, c'est vous. T'as bien mangé à C'est à vous? Non, j'ai rien bouffé. Parce que, en fait, c'est pour les invités de la deuxième partie de l'émission qui font à bouffer. Moi, c'était la première partie, donc ils m'ont rien filé à bouffer. Oui, et donc du coup, hier soir aussi, la bonne nouvelle quand même, c'est que ça y est, on a eu notre premier Bifor sponsorisé. Donc c'était Bouygues Télécom qui était là, avec Anthony de la direction de la communication, le directeur de la com, qui est venu du coup faire un backseat sponsorisé pour parler de Bouygues Télécom, de leurs activités, de leurs projets et de leurs embauches. Et donc c'est cool, ça va nous permettre de respirer un petit peu financièrement. Je vous avais dit que ça allait arriver, mais ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on voudrait, mais c'est comme ça, c'est le temps de la discussion, de la négociation, tout ça. Donc on en a d'autres qui vont arriver là. Est-ce qu'ils étaient contents de l'OP? Ouais, Anthony était content. Anthony était content de l'OP, il était content. Ouais, non, oui, il était content. T'en as pas eu un vent. Sur la saison 1, on en a eu. Sur la saison 2, là, c'est le premier. Donc on a mis 2 mois. 3 mois. Ça prend du temps. Et on est en train de bosser pour en avoir d'autres là qui devraient arriver dans les prochaines émissions. Donc c'est cool parce que ça complète le budget et ça nous permet de voir venir un peu. L'intérêt de Bouygues, c'est l'embauche pour cette OP. L'intérêt de Bouygues, c'est la marque Bouygues, mieux connaître l'entreprise et effectivement l'embauche. Parce que, comme l'a expliqué Anthony hier, ils ont un grand plan d'embauche là dans les prochaines années. Ils vont embaucher, il a dit, 2500 personnes. Donc ils ont besoin de s'adresser à des jeunes pour leur dire bah, venez bosser chez nous, envoyez votre CV, on recrute plein de gens, des conseillers clientèle, des techniciens pour faire de la pose de fibre, des devs parce qu'on travaille sur de l'IT, etc. Donc voilà. Branding plus RH. Ouais, voilà, c'est ça. Les autres before, c'est gratos. En fait, le before de Backseat a été créé, a été inventé pour sponsoriser l'émission. Donc le but du before de Backseat, c'est d'être un moment de pub pour des partenaires qui payent pour passer dans le before, et ça nous permet de financer l'émission. Et donc, le but du jeu, c'est d'éviter que le poids du financement de l'émission repose que sur vos épaules. Parce que je trouve ça injuste. Donc on essaye d'équilibrer au maximum. Mais du coup, quand il n'y a pas de sponsor dans un before de Backseat, plutôt que de supprimer le before, eh ben on en profite pour dire bah on va inviter des gens qui payent pas. Donc c'est l'occasion de présenter des assos, par exemple. C'est pour ça qu'on a fait des before avec Médecins du Monde, on a fait des before, on a parlé des boulangers sur la crise énergétique, on a fait plein de before, etc. On dit bah tant qu'à faire. Puisque c'est un moment d'émission un peu détente, un peu différent, et c'est l'occasion de présenter des assos, ou des activités, ou des gens, ou des trucs et tout, bah voilà, on fait des bifors. Emmaüs, ouais, on a fait Emmaüs et tout, donc voilà. T'as pas envie de mettre plus de pubs pendant Backseat? Bah, une demi-heure de pub, c'est quand même pas mal. Voilà, un bifor de Backseat, c'est une demi-heure de pub, donc non, c'est déjà bien. Mais c'est une manière cool du coup de commencer l'émission, tranquille, les gens arrivent, le chat se remplit, on commence l'émission et à 19h30, les chroniqueurs arrivent et on fait l'émission Backseat. Je trouve ça bien ce sponsoring interview plutôt que juste un placement de produit. Bah oui, et en plus, figurez-vous. Alors du coup, c'est marrant parce que Bouygues Télécom, donc hier, la personne qui était sur le plateau pour parler de Bouygues Télécom, donc c'est Anthony Garibaldi qui est le Grimaldi. Grimaldi, qui est le directeur de la communication de France Télécom, de Bouygues Télécom, putain. Et Anthony, c'est littéralement le mec avec qui on a négocié le Bifor. Là, je pouvais pas faire plus transparent. C'est que je vous ai littéralement présenté le mec de Bouygues Télécom avec qui à qui on a vendu un Bifor. Il est venu lui-même, du coup. Il aurait pu nous envoyer son PDG ou je sais pas qui, mais comme c'est, enfin non, il Je l'ai enfin voilà, on a discuté, on a fait des visios et tout, je l'ai trouvé bien et je lui ai dit bah, enfin, en vrai, toi, viens sur le plateau, tu parles vachement bien, tu pourrais nous présenter et tout, machin. Donc il m'a dit ouais, t'as raison. Et donc il est venu. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, ouais, en fait, ce qui est bien, c'est que nous, on veut faire mieux qu'un placement de produit naze. Parce que tant qu'à faire, on a un plateau, on a une émission qui parle d'actualité politique et tout, bah, on se dit en fait, on a mieux à proposer que simplement une pub, ouais, achetez le dernier forfait de Bouygues Télécom. Bon, ça nous intéresse pas. Et en plus, les sponsors, donc les marques qui sont intéressées par les sponsors, c'est justement ce qu'ils viennent chercher. C'est justement autre chose que de la pub, parce que Anthony Grimaldi, vous vous doutez bien, les directeurs de la communication de Bouygues Télécom, il a un budget communication, il en fait tout le temps des pubs, à la télé, à la radio, sur des affiches, et tout, il en fait tout le temps. Donc lui, c'est lui-même qui nous a dit, en vrai, si c'était juste pour faire une OPSP, un placement de produit, bah, j'aurais payé un YouTuber ou un Instagrammeur, voilà. Non, lui, il était vachement content de venir sur Backseat pour dire, bah, justement, le before de Backseat, ça nous permet, nous aussi, les marques, bah, de répondre à des questions, d'aborder des sujets qui fâchent. Donc en fait, ils sont contents. Ils disent non, non, mais on préfère largement le ton Backseat, le dispositif Backseat. Ils disent non, non, mais c'est justement, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on achète. En plus, évidemment, de l'audience. Ils disent, mais tant qu'à faire, voilà. Tirer Shadow Legend, ouais, c'est ça. En plus, il paraissait transparent. Oui, bah Anthony Grimaldi, directeur de la communication de Bouygues Télécom, quand on a préparé le Bifor, il était hyper partant pour aborder les sujets, bah, la 5G, le lobbying. En plus, c'est un ancien lobbyiste. Donc je lui ai dit, mais enfin, moi j'aimerais bien qu'on en parle. Il m'a dit, mais grave, moi je suis trop chaud pour parler de mon ancien métier de lobbyiste. Donc il était chaud pour en parler et tout. Je lui ai dit, bah écoute, let's go, on va parler de ça. Et puis comme c'est une émission politique, il me dit, mais attends, nous on intervient sur l'installation des le déploiement de la fibre, c'est un objectif politique, hein, c'est le gouvernement qui fixe des objectifs pour l'égalité numérique, l'accès au numérique, etc. dans les territoires ruraux et tout. Donc il m'a dit, bah, attends, mais c'est nous qui posons le câble, donc on est content d'en parler. Pareil sur la sécurité informatique, il m'a dit, les gens ne le savent pas, mais en fait les opérateurs téléphoniques ont des énormes enjeux de sécurisation des réseaux. En lien avec l'État et tout machin, donc on est en plein dans le cœur de l'actualité, la politique, la Chine, la Russie, la guerre en Ukraine et tout, les infrastructures des pays, c'est des trucs sensibles. Donc il était content d'en parler, la lutte contre le piratage, les attaques informatiques et tout. Enfin bref, non, il m'a dit non mais attends, il était trop content de venir parler de tout ça. Est-ce que l'abonnement Twitch finance en partie l'émission? En fait, non, pas directement. L'abonnement Twitch finance ma chaîne, donc moi et mon équipe, pour toutes mes émissions de la semaine. Moi, je fais un stream par jour. J'essaye au maximum de m'en tenir à un stream par jour. Je fais un stream par jour et l'abonnement à ma chaîne me permet de faire ma chaîne, de vivre avec ma chaîne et de ne pas avoir besoin du coup de Backseat. Backseat a son propre équilibre économique de son côté. Donc, c'est un budget séparé. Qui ne sert à financer que Backseat. Donc je n'ai pas besoin de Backseat pour vivre, même si on a prévu une rémunération pour moi dans le budget, mais bon, on verra s'il reste de l'argent à la fin de l'année. Hein. je ne fais pas Backseat pour gagner de l'argent. Et ma chaîne, du coup, n'a pas besoin de Backseat, et Backseat n'a pas besoin de moi. Voilà. C'est ça le but du jeu, c'est de séparer les trucs. Donc quand vous vous abonnez à ma chaîne, et je vous en remercie, vous me soutenez, moi, ma chaîne, au global, et Backseat à côté. Mais comme Backseat, c'est moi le producteur de Backseat, le fait que vous vous abonniez à ma chaîne me permet aussi, du coup, de faire Backseat sans avoir besoin que Backseat me rémunère. Donc, effectivement, indirectement, vous soutenez Backseat en soutenant ma chaîne. Voilà. Est-ce que Bouygues peut revenir faire une deuxième sponsor dans Backseat? C'est possible. On va en parler avec Anthony. On va en parler avec Anthony, mais c'est possible parce qu'ils ont plein d'autres trucs à dire. Justement, on a parlé de formation, on a parlé de plein de trucs et tout, donc il m'a dit en vrai... Enfin, on va en discuter. On va en discuter, mais why not? Why not? Tu te rémunères pas sur Backseat? On a prévu dans le budget une rémunération pour moi. On a prévu une rémunération pour moi, mais comme je suis producteur de Backseat, je me paierai peut-être... à la fin de l'année, s'il reste de l'argent dans la caisse, mais je me paierai en dernier, quoi. Bon, voilà. Encore une fois, grâce à votre soutien, je n'ai pas besoin de Backseat pour vivre. Donc, a priori, ça va. Tu devais pas être dans C'est à vous ce soir. Non, c'est lundi. Je me suis trompé. Le tournage était aujourd'hui, mais en fait, c'est l'émission de lundi. Et comme lundi, c'est férié, c'est le lundi de Pâques. Voilà. Et s'il y a trop, tu gardes pour l'année d'après. Oui, 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 complètement. Ah oui, oui, complètement. Ah oui, oui, oui. S'il y a trop, encore une fois, comme Backseat est financé de son côté, tout l'argent que vous donnez à Backseat ou que les sponsors donnent à Backseat, ça sert à Backseat. Donc nous, le challenge, c'est de réussir à finir la saison. Mais si on a de l'argent, ce sera évidemment pour lancer une saison future, etc., bien sûr. J'espère qu'il paye bien parce que 30 minutes avec une audience très impliquée, c'est de l'or pour une entreprise. Ben j'en ai conscience. Ils en ont conscience aussi. On négocie. Saison 3 confirmée. Oula, oula, oula. Eh les gars, on va commencer par finir la saison 2. Tranquille. Évidemment que j'ai envie qu'il y ait une saison 3, mais une fois que je vous ai dit que j'avais envie, ça ne veut pas dire que je vais la faire. On verra. Je croise les doigts. Une fourchette de prix pour ce genre de placement? Non, je te dirai pas. Non, non, en vrai, non, en vrai, je vous donnerai pas les tarifs des Before parce que ça, c'est du secret commercial. Comprenez que si je vous donne le tarif d'un Before, une fois que je le rends public, ça m'empêche de négocier plus tard avec d'autres clients des tarifs différents. Donc voilà, logique, logique. C'est à la discrétion de la négociation. C'est au cas par cas, du coup, pas de grille tarifaire. C'est un peu au cas par cas, ça dépend. Mais si, 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 après, dans les négociations, nous, on a un tarif, un minimum. On négocie. S'ils veulent un peu, s'ils veulent plus, s'ils veulent machin, on peut, voilà. 2 milliards. C'est 2 milliards. Je sais que ça a déjà été demandé 20 fois, mais est-ce qu'il y a une rediff d'hier? Oui, il y a une rediff dans les VOD de ma chaîne Twitch et sur YouTube, sur la chaîne Twitch, sur la chaîne YouTube de Backseat, où les séquences de l'émission sont uploadées les unes après les autres, dans le désordre, jusqu'à dimanche. Et donc c'est dimanche midi que tu auras le replay intégral de l'émission, comme toutes les semaines. C'est vous qui êtes allé chercher Bouygues ou l'inverse? Je sais plus d'ailleurs, tiens, c'est les deux. Tiens, je sais plus. Mais en fait, c'est oui, les before de Backseat, c'est beaucoup de bouche à oreille et tout. Ah oui, t'es au courant, il y a ça, il y a Backseat, c'est machin qui connaît, qui donne le mail, le numéro de téléphone. Du coup, on s'appelle, on lui envoie le doc, ensuite on se rappelle, on fait une visio. Enfin, je sais jamais dans quel sens ça passe en fait. Il n'y a plus la barre d'avancement comme avec Utip. Ben non, non, ils n'ont pas ça, KissKissBankBank. Ils n'ont pas de barre de progression. Ils m'ont dit qu'ils voulaient la mettre en place, justement, parce qu'ils ont bien vu que c'était pratique, ça marchait bien sur ma chaîne et tout. KissKissBankBank, ils sont super sympas. Hein. Là, on a bossé avec eux pour le lancement de Backseat sur leur plateforme et tout. Ils sont vraiment sympas. Ils sont venus hier soir sur Backseat en plus. Puisqu'on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais rencontrés. Je leur ai dit, bah, passez à l'émission demain et tout. Ils m'ont dit, ah ouais, on vient. Du coup, ils sont venus à 3. Ils étaient trop contents de venir. Ils connaissaient l'émission et tout. Ils sont venus. Bon, je trahis un secret, ils sont venus en sortant de manif. Je dis, ah bah on arrive. Et du coup, ils sont venus et ils étaient super sympas, ça m'a fait plaisir de les voir. Et là, on a quand même passé du temps au téléphone et tout. Donc, ils sont méga à l'écoute, ils sont chauds pour développer plein de trucs sur KissKissBankBank pour aider Backseat à. Voilà. C'est évidemment leur intérêt comme le mien. Hein, donc, ils sont cool, franchement, ils sont cool. Qu'une grosse boîte comme Bouygues vous fasse confiance, ça donne des idées à d'autres marques. J'espère. J'espère. Bon, on y travaille en tout cas. Mais c'est vrai que maintenant que Bouygues Télécom est venu, ça nous donne un argument de plus pour les Bfor avec les autres partenaires. Vous avez vu, on a fait regarder Bouygues Télécom, on peut leur montrer un exemple et tout, regardez. Vous avez vu, c'est vachement bien. Est-ce que les t-shirts brodés seront remis en vente? C'est une bonne question. Non, en vrai, je vous le redis, Utip a fermé ses portes. L'entreprise Utip a mis la clé sous la porte, malheureusement. On a donc migré vers KissKissBankBank. Et pour l'instant, sur KissKissBankBank, vous ne pouvez faire que les dons réguliers. Vous savez, les dons, les abonnements mensuels. Plus tard, on va mettre en place la cagnotte pour faire des dons one shot. Et on va aussi essayer de trouver une solution pour un shop, mais KissKissBankBank n'a pas de shop intégré. Donc on va trouver une solution. J'espère. On y travaille. Pour réouvrir un shop et vous permettre de continuer à soutenir Backseat. On va aussi essayer de trouver une solution pour une billetterie, pour que vous puissiez prendre des places pour venir sur Backseat. Bref, on est dessus. On est dessus. C'est vrai que le don occasionnel, perso, c'est le seul envisageable. Non, je sais, je sais, je sais. Non, non, mais je sais, c'est le but pour nous. Vous vous doutez bien que le but pour nous, c'est de récolter un maximum d'argent pour produire Backseat. Et le but, du coup, pour nous, c'est d'essayer de vous offrir un maximum de possibilités différentes de soutenir Backseat en fonction de vos moyens. Et je vous rappelle que dès 1 euro, c'est un soutien énorme pour nous. Merci du fond du cœur. On préfère largement avoir plein de dons d'un euro plutôt que quelques gros dons de 200 000 balles. C'est-à-dire, ça n'existe pas, personne donne 200 000 balles. Donc voilà. Ouais, donc charge à nous de mettre en place les outils pour vous permettre, en fonction de vos moyens, de vos possibilités, de soutenir Backseat. Donc pour l'instant, vous pouvez faire un don mensuel sur KissKissBankBank. Bientôt, vous pourrez faire des dons one shot. Et j'espère qu'on va réussir aussi à ouvrir un shop. Voilà. Et un shop, comme on en avait déjà parlé, vous savez, c'est à double tranchant parce que le prix que vous mettez dans le t-shirt, bah c'est autant d'argent qui va pas à Backseat. qui va dans le t-shirt. Mais c'est pas grave, vous êtes très content d'avoir un t-shirt et moi je suis très content que vous ayez un t-shirt Backseat. Vous êtes très beau et très belle quand vous portez le t-shirt Backseat, je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Vous êtes sexy as fuck. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on met des prix assez élevés, parce que le but pour nous, c'est pas de vendre des t-shirts, le but pour nous, c'est de récolter de l'argent pour Backseat. Est-ce que tu as des demandes de politique pour avoir votre visibilité? Oui. Oui, il y a des politiques qui nous font savoir qu'ils souhaiteraient, qu'ils aimeraient bien être invités sur Backseat, bien sûr, il y en a. Mais on s'en fout. C'est pas, c'est nous qui choisissons qui on invite et on fait en fonction de l'actu. Mais donc ouais, non, moi, il y a des politiques qui me contactent. Pour me dire super émission, j'aimerais bien être invité un jour. Et je leur réponds toujours merci, je garde votre numéro au chaud. Mais c'est l'actu qui dicte les invités. Donc on vous invitera quand on estimera que l'actu rend intéressant votre présence. En gros, c'est ça ma réponse. Mais ils y sont habitués, hein, c'est normal, tous les médias font ça. Voilà, c'est l'actu qui demande. Est-ce qu'il y aura des t-shirts Backseat et Bouygues? Genre logo Backseat derrière et Bouygues devant? Non, c'est pas prévu. Je suis pas sûr qu'il y ait une demande énorme pour ça non plus. Comment est-ce qu'on peut venir sur place pour l'émission? Je sais pas encore, on va mettre en place quelque chose pour essayer de remettre en place le. Il y a Thomas qui. Thomas, donc c'est le régisseur de Backseat, hein, c'est lui qui s'occupe du public. Il me dit en vrai, on va juste ouvrir un PayPal, c'est peut-être le plus simple. Je pense qu'il a raison. On va voir. Je suis désolé, je vais pas prendre une décision là devant vous. Il faut que j'en parle avec Thomas, il faut que j'en parle avec Quentin et François, mes coproducteurs. Il faut qu'on prenne des décisions, il faut qu'on aille vite. Ah, je vais encore claquer mon week-end à bosser. Bah, c'est pas grave, c'est comme ça. Un t-shirt exclusif par sponsor fait par un artiste, ça pourrait être une idée. Oui. Oui, non, encore une fois. Oui. Encore une fois, ça veut. Enfin, payer l'artiste. Tu comptes le prix qu'on va faire pour payer l'artiste, le temps et l'énergie qu'on va dépenser à fabriquer le t-shirt, plus le coût de fabrication et d'expédition du t-shirt. Il faut rajouter à ça l'argent que ça va rapporter à Backseat. Il faut faire un calcul pour savoir si ça vaut vraiment le coup. Parce que je te jure que dépenser autant de temps et d'énergie pour vendre 20 t-shirts. Voilà, on va essayer de se focus un peu. On va essayer de. Voilà, on va essayer de bosser. Faut vendre des NFT. Oh non, 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 non. Oh non, crypto, NFT, mon cul, non, jamais. Quels étaient les sponsors en saison 1? En saison 1, on a eu la fondation, pas la fondation, pardon, on a eu Google France en sponsor, on a eu Médecins du Monde, on a eu l'ONG One, on a eu la Fédération des notaires, on a eu, j'ai oublié leur nom, mais c'était une exposition à Paris sur la mobilité. Soutenu par la Fondation SNCF. On a eu. Voilà. Je crois que c'était ça, les sponsors qu'on avait eu sur le. C'était trop bien le before avec les notaires. Franchement, il était trop bien le before avec les notaires. Là, vraiment, la Fédération des notaires, ils sont venus sur Backseat. Ils ont pris un before, ils ont payé un before pour dire on a besoin d'embaucher plein de gens dans les études notariales, pas que des notaires, mais aussi juste des gens, des assistants, des collaborateurs, enfin bref, des gens pour bosser. Parce que les études notariales, bah, elles sont vieillissantes et on a besoin de jeunes, on a besoin de gens, on a besoin de. Et donc c'est trop bien, il est vraiment venu dire salut, on a tous une vieille image des notaires, c'est vrai, il y en a plein des vieux, mais du coup en fait ça embauche de ouf. Et ça embauche partout. Partout, 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 partout sur le territoire, au fin fond des départements les plus ruraux, il y a des notaires qui ont besoin d'embaucher. Donc c'était cool. Et en vrai, c'était cool. Et moi, j'aimerais bien qu'on fasse plus de before comme ça sur l'orientation professionnelle. En vrai, je me dis, on a un public, vous, d'une immense qualité. Mais surtout, on a un public assez jeune. Vous êtes nombreux à avoir entre 15 et 25 ans. À peu près 40% du public a entre 15 et 25 ans. Donc, c'est beaucoup de jeunes qui sont en cours de formation ou d'orientation professionnelle ou d'orientation dans leurs études. Je me dis que ça peut être cool, quitte à faire des before, que de faire des before qui propose des orientations professionnelles en disant bah regardez ça embauche. Par exemple Bouygues Télécom hier regardez ça embauche, les notaires regardez ça embauche. Je n'y ai peut-être pas pensé mais en fait peut-être que c'est fait pour vous. Et je me dis que enfin moi j'aimerais bien qu'on fasse des alors une fois que j'ai dit ça c'est facile à dire mais j'aimerais bien qu'on fasse des bifors comme ça avec des fédérations professionnelles pour l'artisanat, pour l'agriculture, pour l'aérospatiale, pour enfin je sais pas il y a plein de secteurs de métiers, les services publics aussi. Devenez fonctionnaire, c'est quoi les concours de fonctionnaires? Comment on devient fonctionnaire? Comment on devient enseignant? Comment on devient pompier? Comment on devient bon why not? Voilà. Bon, une fois que j'ai dit ça, bah maintenant faut aller le vendre. Hein. Coucou les notaires, coucou les avocats, coucou les magistrats, coucou les. Vous voulez bien acheter un bifor? S'il vous plaît. Ouais, le médical, pareil, le médical. Il y a plein de métiers dans le médical. La recherche, c'est pareil, il y a plein de métiers. Il n'y a pas que des chercheurs. Il y a plein de gens qui bossent dans les laboratoires. Il y a des formations spécifiques. Ça, il y a de toutes les formations, il y a de tous les niveaux de salaire, il y a plein de gens qui bossent, machin. Bon. L'ordre des experts comptables. Ouais, par exemple, l'expertise comptable. Moi, j'y connais pas grand-chose, mais si ça se trouve, ça peut parler à des jeunes qui disent, ah ouais, tiens, peut-être que je deviendrai expert comptable. En fait, c'est intéressant comme boîte, enfin, comme métier. Il y a des métiers. Voilà. Chacun son métier. Voilà. Donc, moi, je vous dis que tant qu'à faire des bifors, j'aimerais bien qu'on fasse des bifors comme ça. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, bah, on prend ce qu'on a en fonction de ce qu'on a. On n'accepte pas non plus tout et n'importe quoi. Est-ce que tu as un commercial pour chercher des sponsors? Oui, c'est mes coproducteurs Quentin et François qui s'en occupent. Ils sont pas particulièrement commerciaux, hein, ils sont plus journalistes, médias et tout, mais c'est eux qui s'en occupent. Et on a un réseau d'amis et de boîtes et de gens dans le milieu qui nous connaissent, qui connaissent les bifors de Baxit et qui en parlent autour d'eux. C'est beaucoup de bouche à oreille, hein, les bifors. C'est beaucoup de potes, de gens du milieu, ou de gens qui bossent dans la com ou dans la politique ou machin, qui nous aiment bien et qui disent « Ah mais tiens, attends, je connais le dircom de la boîte machin, je peux lui en parler. Bah, » Vas-y, parle-lui-en. Merci par avance. Les pompes funèbres aussi, ça connaîtra pas la crise. Ah bah tu déconnes, mais oui. Les métiers de... Comment ça s'appelle d'ailleurs? Les métiers autour de la mort, de l'enterrement, etc. Oui, ça embauche, oui. Oui, ça, il y a besoin de bras, il y a besoin de gens, il y a besoin de cerveau, il y a besoin de tout. La thanatopraxie, non, la thanatopraxie, c'est uniquement, justement, c'est le métier de la préparation du corps à l'embaumement, en fait, enfin, la mise en bière, tout ça. Mais il y a tout un tas d'autres métiers, hein. Il y a des commerciaux, il y a de la communication, il y a de l'événementiel, il y a juste, enfin voilà, il y a de l'organisation, il y a des gens qui conduisent les voitures, enfin voilà. Les marbriers, oui, t'as raison. C'est les gens qui fabriquent les tombes, etc. Bah, c'est un métier, un marbrier, c'est un boulot, c'est un savoir-faire, c'est un artisanat, c'est voilà, bah, ça embauche. Tailleur de pierre et tout. Ouais, non, t'as raison, t'as raison. Donc, bref. Mon daron, je l'enterre sous le potager, je m'en fous. Ah, mais creuse profond, hein, parce que c'est un métier. Corbillard, oui, je cherchais le mot, pardon. Le bâtiment, ils ont du mal à attirer des jeunes. Ouais, le BTP. Le BTP, ça embauche, ouais. Bah, tiens, on pourra peut-être faire Bouygues Construction. Le BTP, ça embauche. Bah, ouais, ça embauche, ouais. D'ailleurs, il y a besoin de plein de gens, de plein de corps de métiers différents, des architectes, des ingénieurs, des maçons, des découvreurs, des électriciens, des plombiers, oh là là, des machinistes et tout, oh là là, oh là, où ça embauche? Où ça embauche? Voilà. J'ai aperçu la journaliste Constance Villanova dans les coulisses de la formidable émission Backseat. Je ne sais pas de qui tu parles. Je ne connais pas cette personne. Non, je déconne. C'est bon, vous pouvez clipper. Non, non, oui, Constance est venue dans les coulisses de Backseat. Voilà. C'était chouette. Globalement, tous les métiers où tu meurs avant tes 60 ans. Notaire, non, pas vraiment. Ingénieur, pas vraiment. Architecte, pas vraiment. Non, non. Merci Michel Rockhard pour ton année de soutien. Merci à toi. Constance chroniqueuse. Ah, j'en ai pas parlé avec elle. Je suis pas sûr que Constance ait très envie d'être chroniqueuse sur une émission politique. Je suis pas sûr que ce soit son sujet de prédilection à Constance. Je pense pas. Est-il possible de projeter tes émissions dans des lycées? C'est tout à fait possible. Vous n'avez pas besoin de mon autorisation pour diffuser Backseat dès lors que c'est pour des projets pédagogiques dans le cadre scolaire, universitaire, associatif. C'est écrit dans le code de la propriété intellectuelle. Hein, voilà. Donc, tout usage pédagogique de mes productions est autorisé. Vous avez évidemment besoin de mon autorisation pour diffuser Backseat dans tout autre cadre, y compris commercial, surtout commercial, mais même pas que d'ailleurs. C'est le principe de base de la propriété intellectuelle dans ce pays. Une conquête de la gauche, ça aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? D'ailleurs, si vous avez. On en avait parlé l'année dernière, il y avait un bar qui faisait ça. Il y avait un bar qui était dirigé par un mec qui adorait Backseat. Et du coup, il diffusait Backseat le jeudi soir dans son bar. Et il me l'avait dit à la fin de la saison. Il m'a dit, ah, j'ai diffusé Backseat tous les jeudis dans mon bar et tout. Et je lui ai dit, mais t'es con? T'aurais dû me le dire. Moi, si j'apprends qu'il y a un bar dans une ville qui organise des soirées Backseat dans cette ville, je dis, mais mec, je le dis à tout le monde. Enfin, j'ai. Si moi je peux faire de la pub à ton bar parce que tu diffuses Backseat, mec, mais let's go, je serais trop content de faire de la pub pour les bars dans les villes qui diffusent Backseat en disant à mes abonnés de la ville en question, mais allez le jeudi dans tel bar, vous regardez Backseat ensemble, et en plus vous vous rencontrez et tout, mais je serais trop content. Donc je vous le dis, voilà, si vous connaissez un bar ou des bars qui diffusent Backseat le jeudi et tout, surtout dites-le moi. Si je peux envoyer des clients chez vous, let's go, je serais trop content. Ah non, mais bah, en vrai, échange de bons procédés, on y va quoi. Pareil, hein, si vous possédez un cinéma associatif ou même un cinéma commercial, j'en ai rien à foutre. Et si vous voulez faire des diffs de Backseat ouvertes à tous et tout, bah dites-le moi, je serai trop content. Ou la mairie, l'espace jeune, je sais pas, peu importe. Enfin, si vous faites des diffusions collectives de Backseat ouvertes à tout le monde le jeudi, surtout dites-le moi. Hein, moi je serais trop fier et je vous ferai un énorme big up et je dirai aux gens de votre ville allez là-bas le jeudi soir. Voilà. Envoyez-moi un mail, hein, enfin, faites-le-moi savoir, dites-le à quelqu'un sur le Discord et tout. Ah ouais, non, carrément. Et si vous connaissez des potes qui ont un bar et qui connaissent pas Backseat, faites de la pub pour eux, machin. Et si vous faites des soirées Backseat, ou des viewing parties Backseat, surtout, lancez-vous. Tu pourrais même organiser un live dans un bar. On l'a déjà fait l'année dernière. C'était trop cool. C'était trop, trop cool. T'as pensé quoi de l'échange avec Roland Lescure hier? Déjà, je suis très content que Roland Lescure soit venu sur le plateau de Backseat. C'est pas facile pour les ministres actuellement. Vous vous en doutez, évidemment. Impopulaire, etc. Ils le savent très bien. Donc, je suis assez reconnaissant à Roland Lescure d'être venu sur le plateau de Backseat. Je trouve qu'il a bien compris l'exercice de Backseat. Donc, il a été assez franc dans sa manière de parler et tout, je trouve. Après, c'était un échange tendu parce que la période rend un échange avec tout membre du gouvernement tendu et difficile. Donc, on a parlé des violences policières parce que je voulais pas qu'on n'en parle pas. Je voulais pas non plus qu'on parle que de ça. Donc, on a aussi parlé de la réforme des retraites en général. Ça a été l'occasion pour lui. D'essayer de la défendre, ça a été l'occasion pour les chroniqueurs de l'interroger et d'argumenter. Et je voulais surtout qu'on parle d'industrie, parce que ministre de l'Industrie, comme je le disais en introduction de l'émission, il porte une responsabilité énorme. Hein. C'est lui qui, d'ailleurs, il l'a très bien dit, c'est lui qui met en musique, pour reprendre ses mots, les engagements d'Emmanuel Macron sur la réindustrialisation et la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie. Donc, on avait plein de questions à lui poser quand même sur ce sujet. Donc on a été un peu pris par le temps, mais en plus il devait partir pile poil à la fin de. Enfin, on avait prévu le timing pour qu'il parte après le quiz à la con. Mais pendant l'émission, du coup, comme on discutait avec lui et que l'échange était intéressant, dans l'oreillette, la régie me disait on est en retard, il faut que tu lances le quiz à la con. Et moi, du coup, j'ai dit à la régie, non, mais les mecs, on va pas faire le quiz à la con avec le ministre. Enfin, Enfin, j'ai pas envie de couper la discussion alors que c'est hyper intéressant ce qu'on est en train de dire pour faire un quiz à la con. Donc profitons d'avoir un ministre pour lui poser des questions sur la politique. Et le quiz à la con, c'est pas grave, on le fera sans lui. S'il doit partir, c'est pas grave, on l'a déjà fait sans l'inviter et tout. Et donc du coup, à la fin, au moment où je dis au ministre, je suis désolé, je crois que vous devez partir, vous pourrez pas faire le quiz à la con. Je savais qu'il voulait faire le quiz à la con. Je savais que Roland Lescure, il trouvait ça super marrant et tout. Il avait déjà regardé le quiz à la con, il m'a dit je suis trop chaud. Du coup, je lui ai dit, bah, je suis désolé, on va pas pouvoir faire le quiz à la con. Il a fait, non, mais c'est bon, du coup, je peux rester pour le quiz à la con. Donc, comme c'est lui qui décide, c'est le ministre. Du coup, il est arrivé en retard à son rendez-vous d'après, je m'en fous. Du coup, on a fait le quiz à la con avec lui, il était content. Donc, voilà. Personne ne trouve qu'il a été extrêmement condescendant. Non, je trouve pas qu'il a été extrêmement condescendant. Non. Non, il n'a pas été condescendant. La condescendance, c'est une posture très particulière dans le débat. Il n'a pas été condescendant. Il a essayé d'expliquer la politique du gouvernement, il a essayé de défendre la politique du gouvernement, il a répliqué aux répliques qu'on lui lançait, etc. Il n'a pas été plus condescendant que les chroniqueurs. C'était un invité politique dans une interview. Il a balancé des tutoiements à des moments, j'ai pas compris. Oui, alors du coup, en fait, avant de rentrer sur le plateau, pendant la pause, en fait, moi, quand je lance la pause de Backseat, on fait toujours une pause à Backseat pour deux raisons. D'une part, parce qu'il faut absolument que j'aille pisser, boire un verre d'eau, fumer une clope, parce que j'ai besoin, moi, d'une pause dans mon animation de l'émission. Et en fait, c'est pareil pour les chroniqueurs, c'est pareil pour le public, etc. Vous savez, 3 heures d'émission pour le public, c'est beaucoup, hein. Donc, on fait une pause parce qu'on a besoin de souffler. Et la deuxième raison pour laquelle on fait une pause, c'est que moi, c'est très important que j'aille accueillir personnellement mon invité politique. Donc, l'invité politique, il arrive à la fin de la première partie de l'émission. On me prévient dans l'oreillette que l'invité est arrivé. Donc, je sais qu'on se dirige petit à petit vers la fin de la première partie de l'émission et tout. Et donc, quand je lance la pause, je vais rencontrer mon invité politique. Pour me présenter, le remercier, lui dire bienvenue. Et en fait, je discute du coup avec mon invité rapidement, ce qui est l'occasion pour moi de présenter l'émission, même si je sais qu'il a déjà été briefé avant parce qu'il a discuté avec mon coproducteur dans le couloir et tout. Mais c'est important pour moi de créer cette relation avec mon invité pour lui réexpliquer l'émission, le cadre, lui présenter mes chroniqueurs parce qu'il ne les connaît pas. Donc, du coup, je lui fais une présentation rapide. Donc voilà, Usul, il travaille chez Mediapart, il fait des vidéos, il est assez engagé. Léa, elle est podcasteuse, machin. Donc, du coup, je lui présente les gens qu'il y a sur le plateau, c'est quand même la moindre des politesses. Je lui réexplique globalement le cadre de l'exercice et je réponds à ses questions s'il en a. En gros, voilà, je fais toujours ça et c'est important pour moi parce que c'est aussi dans cet échange un peu informel hors plateau que je peux jauger aussi un peu mon invité. Ça me permet, moi, c'est assez important pour moi parce que ça me permet de sentir un peu à qui j'ai affaire. Pour voir, ça va me permettre de mon comportement en termes d'animation d'émission dépend aussi de comment je sens la personne. Et Roland Lescure, en l'occurrence, il est arrivé méga détendu, super sympa. Il connaissait l'émission, il aimait bien et tout. Il avait envie de venir et tout, donc j'étais très content. Donc je lui ai représenté l'émission et tout. Il m'a demandé, je garde la veste ou je la retire et tout. Je lui ai dit, comme tu veux, voilà. Et surtout, en fait, on s'est tutoyé direct. Moi, je tutoie toujours les politiques hors plateau. C'est très important pour moi de créer une relation de franchise directe hors plateau avec mes invités politiques. Donc je le tutoie direct, il me tutoie direct, il n'y a aucun problème. On se parle comme ça, machin. Et du coup, je lui dis, voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Et il me dit, non, bah, on se tutoie ou on se voit en plateau. Et moi, je lui réponds, écoute, moi, je te vouvoie, je vouvoie les invités en plateau, surtout quand je les connais pas très bien. On se tutoie en dehors du plateau, mais on se vouvoie sur le plateau si ça te va. Il me dit, oui, aucun problème. Et par ailleurs, du coup, je complète en lui disant, t'inquiète, je t'en voudrais pas du tout s'il y a un tutoiement qui t'échappe. Genre, c'est aussi ça, Backseat, tu vois. Backseat, c'est un. Justement, on met l'invité politique dans un dispositif particulier. Backseat génère de la franchise. De la sincérité. Et donc si à un moment il y a un tutoiement qui part, je lui ai dit t'inquiète, il y a aucun problème. Et il est arrivé sur le plateau, il m'a tutoyé direct. Je sais pas s'il était stressé ou quoi, mais vas-y, tu peux, moi je m'en fous. Mais voilà. Donc c'est pour ça effectivement qu'il a un tutoiement qui est parti à un moment. Pourquoi tu tutoies pas en live? Ça dépend des invités politiques. Il y a des invités politiques que je tutoie sur le plateau parce que je les connais et je les connais même assez bien en dehors du plateau. Vous le savez, Antoine Léaumont, Hugo Bernalicis, par exemple, c'est des gens que je connais, c'est un peu des copains. Donc eux, s'ils viennent en plateau, voilà. Manon Aubry, pareil. Je la connais, je la tutoie, parce que voilà, c'est des gens que je connais en dehors du plateau. Mais c'est pas juste, c'est pas quelqu'un que je viens de rencontrer il y a 2 minutes. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'en général, d'ailleurs, quand je tutoie des gens en plateau, je vous le dis. Par sincérité et par transparence vis-à-vis de vous, je précise au début de l'interview que je vais tutoyer mon invité parce que je le connais. Et voilà, comme ça c'est clair, comme ça les gens ne sont pas surpris et tout. T'en as pas qui refusent le tutoiement pour éviter le mélange des genres et tu ferais quoi? Ah bah, il n'y a aucun problème, on peut tout à fait refuser le tutoiement, il n'y a aucun problème. Bah, du coup, on passe au vouvoiement, c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Le tutoiement, ça crée pas un entre-soi. Oui, ça peut peut-être participer à la fabrication d'un entre-soi, je veux bien le croire, mais ça permet quand même quelque chose d'important, le tutoiement, en politique. En politique, et y compris quand t'es un média, parce que c'est mon rôle, du coup, dans ces moments-là, ça permet la franchise. Tutoyer un politique et lui faire comprendre qu'il peut me tutoyer sans problème, c'est une manière de lui dire, si t'as un truc à me dire, tu me le dis. De la même manière que si moi j'ai un truc à dire, je te le dirai. Donc on est cash, on se dit les choses, et l'autre truc que ça permet d'éviter, c'est de créer des logiques de préséance. Le vouvoiement, ça fabrique une distance, et t'as toujours le vouvoiement respectueux, et le risque que j'ai moi, en tant que jeune streamer sur Twitch, si je me mets à vouvoyer les politiques, c'est de me placer moi dans une posture d'infériorité par rapport à mon invité, puisqu'il est ministre de la République et tout. Non, non, moi je joue pas à ce jeu-là. C'est important pour ma crédibilité, pour la crédibilité de mon émission, etc., de créer d'entrée de jeu une logique d'horizontalité entre mon invité et moi. C'est aussi important pour moi dans cette logique-là, de crédibiliser mon émission et tout, en disant à mes invités, essaye pas de me la faire, essaye pas de te la jouer les dorures de la République avec moi, tu m'impressionnes pas. D'ailleurs, ça tombe bien, t'as pas vocation à m'impressionner, je t'impressionne pas non plus. Fair enough. Voilà. Donc ça a une forme de sens, quoi. Après, je vous dis ça, il y a des politiques que j'ai pas réussi à tutoyer, hein. Christiane Taubira, quand on l'a reçue, j'ai pas réussi à la tutoyer. Je sais pas. Christiane Taubira, c'est une femme. Elle a un âge plus avancé que le mien, voire même beaucoup plus avancé que le mien. J'ai un espèce, c'est par ailleurs, c'est une femme très impressionnante. C'est une grande dame politique, etc. C'est pas facile de tutoyer. Et donc c'est vrai, quand elle est arrivée, Et là, pour le coup, vous voyez, tiens, vous voyez, typiquement, c'est exactement ce que je vous disais. Je suis rentré dans une logique de préséance. Et c'est pas bien. Faut pas que je sois impressionné par mon invité politique. Christiane Taubira, il faut pas que je sois invité, il faut pas que je sois impressionné par elle. Je la reçois sur mon plateau, elle est candidate à l'élection présidentielle. Et ben, je l'ai vouvoyée. Je sais pas, sur le moment, j'ai dit bonjour madame, merci d'avoir accepté mon invitation et tout. Elle était très belle, très charmante. Entouré de ses collaborateurs et tout, et ça m'a impressionné. Bah voilà, bah j'ai failli. Ça en impose, tu vois. Bon, et bah voilà, bah c'est hyper intéressant, mais c'est exactement le bon exemple. Voilà, j'ai eu un réflexe de préséance vis-à-vis de Christiane Taubira, grande dame, machin. Bon, c'est comme ça. Et Macron, alors moi, Macron, je l'ai jamais rencontré, et je sais pas si je le rencontrerai un jour, et ça dépend dans quel cadre je le rencontrerai, mais si un jour j'ai un échange direct. Avec Macron hors micro, hors caméra, je sais pas d'ailleurs si je le tutoierai ou pas. Mélenchon, je l'ai tutoyé. Ouais, Mélenchon, je l'ai tutoyé, ouais. Ouais. Je l'ai tutoyé, Mélenchon, oui. Lui, il voudra le vouvoiement. Macron, je pense pas. Ah non, 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 je pense que Macron, pour le coup, il fait plutôt partie de cette génération de politique qui est à l'aise justement avec le côté on se dit les choses, là, on parle cash. La préséance, machin. Non, non, vas-y, si c'est un truc à me dire, tu me le dis, hein, on se dit les choses. Usul, il tutoie tout le monde. Alors non, Usul, non. Usul, il vouvoie toujours les invités politiques, sauf ceux qu'il tutoie en dehors du plateau. Mais Usul n'a pas la même position que moi vis-à-vis des politiques. Ça, faut bien comprendre aussi qu'Usul et moi, on fait pas le même métier. On n'a pas la même relation par rapport aux politiques. Usul a une distance nécessaire vis-à-vis du politique, des politiques, pour son travail, pour le fait qu'il travaille pour Mediapart, etc. Lui, pour le coup, c'est l'inverse de moi. Lui, il a besoin de créer une distance pour faire comprendre aux politiques qu'ils ne sont pas copains-copains. Donc voilà, donc Usul, lui, pour le coup, il va même plutôt chercher à éviter les politiques. Là où moi, je vais plutôt me chercher à rencontrer des politiques, boire des cafés avec eux, créer des moments de off où on va se dire les choses. Parce que moi, j'ai besoin que les politiques me parlent. J'ai besoin que les politiques me disent comment ils voient les choses, comment ils sentent les choses, etc. Parce que ça nourrit mes analyses politiques. Quand je vous dis des trucs sur en ce moment au sein de la NUPES, en ce moment au sein du gouvernement, etc., c'est parce que j'ai eu des échanges en off, des textos, des discussions. J'ai bu des cafés avec des gens qui m'ont parlé pour me lâcher des infos, me donner leurs analyses sur comment en interne ça se passe et tout. Voilà. Est-ce qu'il serait possible que tu t'engages en politique à l'avenir? J'en sais rien, je sais pas. C'est moi, je fais un métier aujourd'hui, streamer, dont le mot n'existait même pas il y a 10 ans. Le mot voulait rien dire il y a 10 ans. Donc est-ce que je me lancerais en... Enfin, tu vois, je sais pas de quoi ma vie sera faite demain. Pour l'instant, je suis très heureux de discuter avec vous, de vous produire des émissions que j'essaye de faire les plus cool possibles. Voilà, ma vie me satisfait pour l'instant. Je suis heureux, c'est cool. Et puis on verra de quoi demain sera fait. J'en sais rien, je sais pas. Peut-être que je ferai ma crise de la cinquantaine. Peut-être que j'ouvrirai un restaurant sur la plage à Strasbourg. J'en sais rien, je sais pas, je sais pas. Sur la plage à Strasbourg. Ah ouais, donc vraiment, vous n'êtes pas second degré dans le chat. Hein. Il y en a qui sont trop premier degré. Eh, c'était une blague. Un cabinet de conseil. Oh, ça me ferait chier. Ça dépend. Oh, non, un cabinet de... Non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie de faire du conseil. Moi, je dis ça. Je dis ça. Peut-être que je finirai comme tout le monde par ouvrir un putain de cabinet de conseil quand j'aurai 50 berges parce que j'aurai envie de faire du fric avant ma retraite. Je dis, ah, vas-y. Je fais du conseil. Je pense que 100% des gens que je connais qui font du conseil ont tous dit un jour dans leur vie, tu sais, moi je ferai jamais de conseil. Ils l'ont tous dit. Eh ben, bah, les aventures de la vie font que, au gré des événements, oh, tu te retrouves à faire des trucs. À dire, bah tu vois, maintenant je suis dans le conseil. Bah, c'est Adèle qui m'avait dit ça. Elle dit, putain, si j'avais su un jour je ferais du conseil. Et en fait, elle s'éclate. Elle me dit, non, c'est un super boulot, je suis contente et tout. Mais... Je suis bien passé de l'électronique à la compta. Non mais voilà, moi je suis passé de collaborateur de cabinet à streamer. Je sais pas de quoi demain sera fait. On verra. On verra. Je te vois bien présentateur d'une émission politique sur France TV. Pourquoi France TV? Pourquoi la télé? Pourquoi? C'est comme dirait Samuel Etienne, quand t'as goûté à Twitch. La télé, ça te fait vraiment pas bander. Alors, vraiment pas. Donc, non, non, je. En fait, je dis ça, j'en sais rien, peut-être. Ça dépend du projet. On pourrait faire backseat à la télé. Si ça permettait de financer l'émission. Ah, mais par contre, je négocierais. Ah non, mais je refuse de changer un iota à backseat. Mais si y a une chaîne télé qui veut l'acheter. J'imagine, j'arrive plus à apprécier les entretiens télé-radio classiques. Ah ouais, non, non, moi ça, je sais plus faire. Hein. Les interviews télé-radio. Après, c'est un exercice journalistique en soi. Hein. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui le font. Il y a des gens qui apprécient et qui regardent ça encore. Encore une fois, je veux pas avoir de mépris dans ma voix. Quand je parle de la télévision et de la radio, je n'ai pas de mépris pour les gens qui la font ni pour les gens qui la regardent. Chacun son média. Moi, je fais une proposition sur Twitch. Bon, j'ai absolument pas la prétention de faire mieux ou d'être meilleur. Attention. Donc, c'est pas du tout le sujet. Mais moi, en consommation personnelle, c'est vrai que. Backseat à la télé, c'est plus backseat, c'est autre chose. Non, mais justement, c'est pour ça. Moi, je veux pas changer backseat. Mais si une télé accepte de me laisser faire backseat tel que moi, je veux le faire sur Twitch et qu'ils veulent le diffuser à la télé, bah, si ça changerait l'émission, bah, je suis en mode why not? Merci Fripon Tournesol pour le sub offert. Moi j'aimais bien ce que tu faisais avec Public Sénat. Ouais, c'était cool avec Public Sénat pendant 4 ans. C'était bien. Bah, tu vois, typiquement, voilà. Public Sénat, vachement bon deal. Public Sénat, c'est une chaîne de télévision qui m'a acheté une émission pour la diffuser à la télévision, mais qui était faite sur ma chaîne Twitch avant. C'était un super deal. C'était trop bien. Du coup, c'était vraiment un stream Twitch qui était pensé pour Twitch. C'était en direct sur Twitch. C'était avec le ton Jean Massier sur la chaîne, machin et tout. Nickel. Et Public Sénat rediffusait l'émission à l'antenne télé, TNT, Public Sénat. Chacun y trouvait son compte, c'était trop bien. Tu le diffuseras sur Twitch aussi si tu vas à la télé? Ah bah oui! Ah oui, non, 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 moi je quitterai pas Twitch pour aller à la télé, hein. Ah non, 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 non. Ah non, pardon si je me suis pas fait comprendre. Si je me suis pas fait compris. Non, non. Quand je parle de backseat à la télé, je parle de toujours backseat sur Twitch. Mais en même temps diffusé à la télé. À la même heure, en direct, bah très bien, let's go. Ou la rediff. Public Sénat, c'est financé par le Sénat? Oui, à 100%. Oui. Ah non, je vais pas transférer Backseat à la télé. Ah bah non. Ah bah attends, on perd tout l'intérêt. Ah non, 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 ah non, j'ai pas envie de faire une émission télé. Non, j'ai pas envie de faire une émission télé. La rediff comme ça, pas de contrainte horaire fixe sur Backseat. Ouais. Non mais enfin j'en sais rien, écoute, faudrait qu'on en discute un jour avec des chaînes télé, mais s'il y a une chaîne télé qui est chaude pour acheter Backseat pour le rediffuser le dimanche soir, par exemple, hein, je sais pas pourquoi je dis le dimanche, mais n'importe quel jour, et que moi ça me permet de financer Backseat sur Twitch, bah écoute, why not, hein? À part que tu produis pour pas cher, quel TV serait vraiment chaud pour diffuser ce type de ton? Ah c'est pour ça que j'y crois pas beaucoup, hein. Attention, là je parle d'un espèce de projet dans ma tête, mais je suis à peu près persuadé que la télévision ne veut pas diffuser une émission comme Backseat. Une émission où on est en t-shirt, où on dit putain de bordel de merde à chacune des phrases, où on fait des blagues débiles, etc. Je pense que la télé, elle ne sait pas faire, elle ne veut pas faire, et je pense que... Non, non, je rigole à haute voix, mais je pense vraiment pas qu'une chaîne de télé soit intéressée pour diffuser Backseat. Je pense que c'est trop jeune pour eux, c'est trop fun, c'est trop punk, c'est trop... C'est pas grave. Il y a bien TPMP. TPMP, c'est pas pareil. TPMP, c'est une émission qui a commencé petit sur C8 et qui est montée petit à petit. Donc c'est pas tout à fait pareil. Sur France 4. Ah oui, non, pardon, oui, ça avait commencé sur France 4, autant pour moi. Oui, ça avait commencé sur France 4. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc ça a toujours été une émission télé, TPMP. Après, ça a évolué, c'est devenu ce que c'est devenu, mais c'est pas tout à fait. On peut pas comparer avec Backseat, qui du coup est un pur produit d'Internet et de Twitch, et qui du coup, je suis d'accord avec vous, n'a pas vraiment sa place à la télé. Enfin, j'en sais rien, je suis pas directeur de chaîne télé, moi je sais pas ce que veulent les gens de la télé. Backseat qui va se faire acheter par C8 et Bolloré MDR. Non, ça n'arrivera pas, ça. Je ne vois pas un quart de seconde C8 intéressé par Backseat. Non, c'est pas grave. Est-ce que tu ferais une petite chronique à la télé? Non. Non, 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 non. Moi, j'ai mes ressources à moi les plus rares, c'est le temps et l'énergie. Je ne veux pas consacrer du temps et de l'énergie pour produire un travail diffusé à la télévision, parce que ce serait autant de temps et d'énergie que je ne consacrerais pas à produire des trucs pour vous sur Twitch. Donc, il y a déjà des télés qui m'ont proposé, hein, y a des radios, des télés, j'ai eu une chronique sur France Inter, j'ai été chroniqueur sur LCI, j'en ai fait plein, des trucs à la télé. Je vois bien ce que ça demande, je vois bien le temps que ça prend. Et je ne veux pas consacrer du temps et du travail à bosser pour la télé alors que j'ai envie de bosser pour vous. Mais ou alors il faudrait que je trouve une nouvelle manière de travailler, très différente et tout, mais en tout cas voilà, moi je réfléchis vraiment en termes de temps, de ressources, de où est-ce que j'ai envie de mettre de l'énergie et du temps. Pour l'instant, j'ai envie de développer Backseat, j'ai envie d'organiser des événements, etc. J'ai envie de développer mes streams avec vous, discuter et tout. Et si on me propose des projets, je réfléchis en termes de, ok, combien de temps ça va me prendre? Et qu'est-ce que ça va rapporter aux gens qui me suivent, enfin, qui s'abonnent à ma chaîne Twitch et tout. Donc non, je vais pas passer de temps à bosser pour les autres. Non. Je bosse pour vous et... C'était comment, C'est à vous? On a fait le tournage de l'émission C'est à vous cet après-midi et ce sera diffusé lundi. Donc vous verrez lundi. Parce que lundi c'est férié, du coup ils ont fait le tournage vendredi. Donc tu passes à Lyon fin du mois. Oui. Attends. Attendez, j'ai une annonce, les Lyonnais là. Ouvrez bien vos esgourdes. Je serai à Lyon pour un apéro avec vous d'ailleurs, c'est pour ça que j'y vais, hein. Merci Anonymous qui offre un sub, merci beaucoup. Je serai à Lyon. C'est quand? Attends, je suis sur le Discord. Message épinglé. Le 22 avril à Lyon. Le 22 avril. Paf ouf. Donc notez bien les Lyonnais. On boit des coups le 22 avril à Lyon. Au bar, le Puzzle Inn 278 rue de Créqui à Lyon. Donc notez bien, toutes les infos sont sur le Discord, on vous le redira. Mais voilà. Et pour ceux qui veulent, avant ça, à partir de 15h, on fait une visite du Vieux Lyon en groupe. En général, quand je vais prendre des apéros avec la communauté dans des villes, on en profite pour visiter le centre-ville en se baladant avec la communauté qui vient de la ville. Du coup, moi j'ai très envie de visiter le Vieux Lyon, que je connais très mal. Donc à 15h, on visite le Vieux Lyon. Rendez-vous devant la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, à 15h. Ceux qui sont là viennent, on se balade, on rigole, on apprend plein de trucs avec les Lyonnais qui nous expliquent plein de trucs. À 16h30, on passe vers Fourvière, et à 18h, rendez-vous au bar. Donc voilà, si vous voulez venir qu'au bar, vous venez qu'au bar à 18h, il n'y a aucun problème. Et puis on y passe la soirée, donc vous passez quand vous voulez. Voilà! Quelle est la personne politique que tu aimerais le plus inviter en plateau? Bah ça dépend de l'actu en fait. C'est pas des personnes. Moi je veux inviter les personnes qui font l'actu. Voilà. Excuse-le, ça dans le coin. Je suis pas sûr, je pense pas, je sais pas. T'étais pas censé être sur France 5 ce soir. Non, c'est demain, je me suis trompé. Le tournage c'était aujourd'hui. C'est lundi, pardon. Le tournage c'était aujourd'hui et la diffusion c'est lundi. Une interview avec le président de la République, ça te tente ou pas? Ça dépend. Ça dépend de l'actu, ça dépend du contexte, ça dépend du dispositif éditorial, ça dépend pourquoi faire. Enfin, voilà, ça dépend de plein de trucs. Moi, spontanément, comme ça, en claquant des doigts, une interview du président de la République, ça veut rien dire. Une interview, c'est pas décorrélé d'un contexte, d'une actualité, d'un média. Donc si c'est une interview sur ma chaîne, parce que le président de la République souhaite s'exprimer pour parler d'un sujet que je trouve intéressant littéralement et tout, oui, ça peut le faire. Mais une interview sur une autre chaîne que la mienne pour parler d'un sujet dont je me fous. Comment est-ce qu'on définit ce qui est d'actualité ou non? C'est subjectif, c'est moi qui décide. Non mais enfin, voilà. En ce moment, il ne vous aura pas échappé que la réforme des retraites est un sujet d'actualité. Mais non, mais je te jure. T'as pas senti hier que Lescure avait un certain détachement avec le reste du gouvernement? Si, un peu. Si, si, un peu, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Pierre Lescure, alors faut un peu lire entre les lignes, mais c'est vrai qu'il a un positionnement, notamment quand on parlait des violences policières, etc. Je sais plus, à un moment, il a dit un truc du genre. C'est vraiment du langage gouvernemental, il faut lire entre les lignes pour comprendre. J'ai dit quoi, Pierre Lescure? Pardon, Roland Lescure, excusez-moi. Pardon, 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 pardon. Roland Lescure. Je sais plus à quel moment, mais en gros, il expliquait que le gouvernement avait merdé dans sa communication et que la stratégie de la tension de Darmanin n'était pas la bonne. Il l'a évidemment pas dit comme ça parce qu'il peut pas le dire comme ça, mais tu sens que le fond de sa pensée, c'est que ça déconne à plein tube du côté de Darmanin, de cette montée en tension verbale, etc. Le champ lexical n'est pas le bon. Il a utilisé la notion de violence policière sans la discuter, effectivement. Ça aussi, enfin, vous voyez, c'est. Encore une fois, il faut contextualiser. C'est un ministre en exercice qui parle pendant une crise sociale majeure et politique et démocratique, etc. Il faut comprendre ce qui relève de la nouveauté, de l'avancée, etc. Et en l'occurrence, oui, il a utilisé la notion de violence policière sans la contester. Alors que d'habitude, c'est une espèce de machin. Il a renvoyé dos à dos les violences. Qui est une manière pour lui de ne pas contester l'existence des violences policières, mais de la mettre au regard des violences des manifestants violents. Donc évidemment, ça fallait pas s'attendre à autre chose, hein, il n'allait pas dire autre chose. Et à la fin, du coup, dans l'échange avec Usul, c'était intéressant parce que ils ont réussi à donner naissance, mais c'est con qu'il n'ait pas verbalisé mieux que ça. Ils ont réussi, Usul et Roland Lescure, à faire comprendre qu'ils avaient une vision radicalement différente de la difficulté. Du travail. Et du coup, on débriefait après l'émission avec Usul et on était d'accord pour dire que, en fait, c'est vraiment des visions du monde qui s'opposent. Usul, en marxiste, considère. Comment dire? Comment l'expliquer? Qu'en fait, c'est pas une fatalité. L'injustice du marché du travail et la difficulté du travail pour les travaux qui sont des labeurs. Et il y a une véritable volonté d'une amélioration de l'ordre établi. Là où Roland Lescure, lui, pour le coup en macroniste, en libéral, il vient du Canada, etc., a une vision différente des choses. C'est-à-dire que la vie est dure. Donc, il faut réussir à faire en sorte que chacun des agents, donc chacun des individus, en tire le meilleur parti possible. Donc, limiter l'injustice quand on le peut, essayer d'améliorer le sort des uns et des autres, mais dans une logique où on ne pourra jamais empêcher les travaux laborieux d'être laborieux. Et du coup, ils ont réussi à montrer sur le plateau qu'il y a une véritable différence de conception et d'acceptation de la logique de la difficulté dans la vie. Et ça, je trouvais ça assez intéressant. Et encore une fois, le but d'un échange sur le plateau de Baxit, c'est pas que les gens soient d'accord à la fin. Donc, faut pas s'attendre à ce que Usul et Roland Lescure tombent d'accord. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une expression des points de vue et des manières de penser les choses. Et j'espère que l'émission d'hier soir vous aura permis de voir ça. Il a parlé de misérabilisme. Oui, mais c'est aussi une logique de. Mais justement, alors ça vraiment, c'est le vieux débat entre les marxistes et les libéraux sur est-ce que le travail est émancipateur ou pas. Il y a une émancipation collective de la classe ouvrière dans le travail pour les marxistes, dès lors que le travail est lié au pouvoir politique qui rend possible de renverser le capitalisme et de mettre la classe ouvrière au pouvoir, etc. Il y a une émancipation possible dans le travail pour les individualistes et les libéraux, dans la réalisation personnelle par son propre travail, par l'œuvre de sa vie. Et ça, c'est une opposition historique. Hein. Ils ne seront jamais d'accord. C'est pas grave. C'est vraiment des clés de lecture du monde qui ne sont pas les mêmes. C'est vite fait résumer le marxisme. C'est très très vite fait. C'est très très vite fait. C'était l'un des meilleurs moments de l'émission qui m'a le plus intéressé hier. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, c'était un moment assez intéressant. Je ne sais pas si on a bien réussi à l'expliquer. T'as vu que Edwy Plenel tourne plainte contre la réalisatrice Maïwenn? Non, j'ai pas vu. Le libéralisme explique l'épanouissement des éboueurs. Ouais. Alors déjà, les éboueurs eux-mêmes, te répondraient, je t'emmerde. C'est pas misérabiliste d'être éboueur. Il y a une fierté du travail. Enfin, non, mais tu vois, c'est... ce regard qu'on porte sur les éboueurs est extrêmement méprisant vis-à-vis d'un travail dont beaucoup d'entre eux sont fiers. Et oui, un libéral t'expliquerait que des travaux, y compris des tâches pénibles, y compris des tâches difficiles, y compris des tâches peu valorisées socialement, peuvent faire l'objet d'une fierté, d'une réalisation de soi par son propre travail qui génère son propre argent, qui permet à chacun de s'assumer. Et c'est une immense émancipation pour l'individu que d'être capable, par son activité, de subsister à ses besoins, de développer sa vie, etc. Donc oui, bien sûr. Mais rappelez-vous, 2016, rappelez-vous, j'étais en stream déjà à l'époque, vous étiez abonné ou pas? Non. À l'époque, en 2016, au moment où Macron, justement, arrive sur la scène nationale, crée En Marche et tout, je rappelle qu'on avait fait la diffusion du premier meeting de la fondation du parti En Marche. Macron avait expliqué ça, on parlait du chauffeur Uber. À l'époque, c'était le grand débat. Alors aujourd'hui, on sait que Macron et Uber, en fait, ils étaient cul et chemise. Mais indépendamment de ça, sur la philosophie politique, Emmanuel Macron avait développé toute une rhétorique autour justement du chauffeur Uber. Le chauffeur Uber qui était ce jeune de banlieue. Très souvent, c'était des jeunes issus de quartiers populaires qui étaient chauffeurs Uber. Je parle au passé parce que ça a peut-être changé depuis, je pourrais pas me prononcer, je sais pas. Mais du coup, il y avait une opposition assez intéressante entre une partie de la gauche, y compris du gouvernement socialiste d'ailleurs, qui disait il faut interdire Uber, c'est un scandale, c'est l'exploitation de jeunes précaires, etc. Et Macron qui disait. Mais en fait, le boulot que fait le chauffeur Uber, c'est pour lui un progrès énorme. C'est-à-dire si l'alternative que vous proposez, c'est pas de boulot du tout, enfin, il y avait un côté, en fait, mais c'est très bien d'être chauffeur Uber, parce que à minima, c'est déjà un pied dans l'activité professionnelle, dans la réalisation de soi, dans le fait de percevoir des revenus. Et puis, les gens ne seront peut-être pas chauffeur Uber toute leur vie, et quand même, ils le seraient, c'est pas grave. Et ils évolueraient vers autre chose et tout. Donc il y avait vraiment cette vision que je sens que Macron avait beaucoup parlé du chauffeur Uber. Il y a eu un débat national à un moment autour de la notion de chauffeur Uber. Est-ce que l'ubérisation et tout? Donc évidemment qu'il y a une critique de gauche sur les conditions de travail, le travail des plateformes, etc., la précarité des situations. Mais du coup, c'est vraiment des clés de lecture du système qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Macron a raison. En fait, il a ni raison ni tort. C'est-à-dire que c'est une. Encore une fois, je parle de clés de lecture du monde. Personne n'a raison ou tort en matière de manière de voir le monde. Tu vois? C'est une vision. C'est une vision qui est propre à un camp politique et située historiquement, sociologiquement, etc. Y compris en termes de classe sociale, d'ailleurs, hein, c'est plutôt bourgeois, c'est plutôt... Effectivement, c'est plus facile de voir le travail c'est plus facile de voir le travail comme émancipateur lorsque tu as toi-même été émancipé par ton travail. C'est sûr, c'est facile. C'est le fameux, bah, les gens, ils ont qu'à se sortir les doigts et puis ils iront mieux. Oui, parce que ça a été ton cas à toi, donc effectivement c'est facile vu comme ça. À l'inverse, tu te doutes bien que le mec qui bosse à la chaîne et qui a le dos en vrac dès l'âge de 50 ans, il va pas exactement avoir le même message et le même rapport au travail. Voilà. Donc bon. Et donc à traverser la rue. Bah, cette logique-là, justement, d'Emmanuel Macron, traverser la rue, vous en trouverez du boulot, c'est justement dans cette logique-là. Emmanuel Macron, je pense vraiment, alors je n'ai jamais rencontré Emmanuel Macron, jamais discuté avec lui, je pense qu'Emmanuel Macron ne comprend pas pourquoi les chômeurs n'acceptent pas un petit boulot en se disant qu'en fait c'est un marchepied vers d'autres boulots plus tard. Parce qu'Emmanuel Macron est convaincu qu'en fait le monde du travail est facile, que la mobilité professionnelle fait que bon bah tu vas avoir un boulot qui correspond peut-être pas totalement à tes envies là maintenant, mais qu'au moins ça te permettra de sortir du chômage, du coup tu vas être en activité professionnelle. Du coup, tu vas gagner un salaire, tu vas gagner un peu mieux ta vie et tout, parce que les allocations chômage, c'est pas une situation. Que du coup, tu vas ensuite changer de boulot pour ensuite aller vers un métier qui se rapproche plus de ce que tu as envie de faire. Et puis petit à petit, tu vas changer. Et puis éventuellement, un jour, tu arriveras à une situation qui te plaît, qui te convient, etc. Voilà. Macron, je suis sûr que dans sa tête, les chômeurs, vraiment, traverser la rue, il y en a du boulot. Oui, mais en fait, non. Non, il y en a déjà, il n'y en a pas du boulot. C'est pas vrai. Et encore une fois, quand je dis ça, vous comprenez bien que j'ai une vision des choses différentes de celle de Macron. Mais non, il n'y a pas de boulot pour tout le monde. Non, il n'y a pas de boulot dans ta zone géographique. Non, il n'y a pas de boulot dans ton domaine de compétences. Non, il n'y a pas de boulot dans ta fourchette de rémunération dont tu as besoin pour vivre. Non, un boulot précaire n'est pas toujours préférable à une situation d'allocataire. Enfin, tu vois, c'est... Bon, je ne suis pas d'accord avec Macron, je crois que vous l'avez compris, sur cette vision-là du monde. Mais je m'efforce d'essayer de vous expliquer comment Macron voit les choses pour que vous compreniez mieux de quoi sa politique est le... et la suite logique. Qu'est-ce qui sépare Macron d'une droite libérale? Je ne sais pas ce que toi tu mets derrière la notion de droite libérale. C'est pour ça que j'ai toujours dit que c'est tellement subjectif que je... Voilà. Mais oui, on est proche du libéralisme. Macron, ça reste un président de la République française. Donc il y a quand même un très fort interventionnisme. Il y a même de la planification maintenant. Il y a de la stratégie économique. Il y a... Voilà. Macron peut-il être considéré comme un dictateur? Non. Non. Comme un président de la Ve République qui est un régime ultra-présidentialisé qui commence à vriller de petit à petit vers l'illibéralisme, oui. Mais si tu utilises le mot dictateur à tort et à cri, bah du coup tu mets sur un pied d'égalité des trucs tellement pas comparables que pff, on perd tout en fait. Enfin, je... Voilà. Pour le coup, c'est un peu ce que disait hier soir Roland Lescure qui parlait des totems et des tabous. En disant, il y a des mots comme ça, on les drop dans le débat public, et puis bon, bah, ça empêche la pensée, ça empêche la complexité, la subtilité, la manière de voir les choses, et tu dis Macron égale Kim Jong-un. Non. C'est plus compliqué que ça. Je sais plus qui avait dit Ségolène Royal, elle est un peu fasciste. Tu dis oui, bon d'accord, en fait ça veut plus rien dire. Tu vois, le mot fasciste, voilà, il est droppé là. Quelle est la différence entre socialiste et social-démocrate? Ça dépend qui prononce la phrase, dans quel contexte et à quelle époque et à quel endroit. C'est ça, c'est ce que je me tue à vous dire quand on parle justement de ce que j'appelle les étiquettes politiques. Donc il y en a beaucoup, hein, il y a communiste, insoumis, populiste, libéral, fasciste. Enfin voilà, tous ces mots-là sont des mots qui sont contextuels, qui sont subjectifs et qui évoluent avec le temps. Donc, il n'existe pas de définition objective, scientifique, absolue de ce qu'est et de ce que n'est pas la social-démocratie, le socialisme, etc. Il y a des expériences qui se sont données le nom de dans l'histoire et dans la géographie, que l'on peut donc, par convention, appeler de telle manière, et on peut ensuite, par mimétisme, y voir des liens ou pas. Mais c'est normal qu'il y ait un débat et des approches différentes du truc. Donc c'est une question de référentiel, donc c'est pour ça que je vous dis, ça dépend qui parle, pourquoi et à quel moment, etc. Le mot ne veut pas dire la même chose et tout. Donc en général, on utilise l'histoire parce que c'est quand même pratique, on utilise la géographie aussi, donc c'est quoi la social-démocratie? Bah, il y a des sociodémocrates dans les pays d'Europe du Nord, c'est une approche particulière du socialisme démocratique de la seconde moitié du XXe siècle. Voilà, donc il y a des caractéristiques précises qui ont été développées par des penseurs qui se révélaient de cette pensée. Il y a aussi des penseurs critiques qui, critiquant cette pensée, l'ont aussi décrite. Est-ce que les deux ont raison, est-ce que les deux ont tort? Ben, ni l'un ni l'autre, en fait, ils apportent des éléments de qualification et de réflexion. Le fascisme est quand même bien défini et documenté. Ça dépend si tu prends une définition historique, littérale de la notion de fascisme, alors ne relève du fascisme que la politique italienne menée par Benito Mussolini en Italie entre 1928, 1929 et 1945. 1922. Ah, c'est 22 la prise de pouvoir? Oh la vache! Voilà. Si tu dis ça, ok. Donc rien d'autre n'est fasciste. Sauf que cette politique, cette pensée fasciste, qui vient des faisceaux de feu, machin, bref, le fascisme italien, a inspiré d'autres écoles de pensée politique ailleurs dans le monde et à d'autres époques aussi. Donc, il peut être pertinent de rapprocher du fascisme, par mimétisme, par similarité, d'autres régimes politiques, y compris à d'autres époques et y compris dans d'autres zones géographiques. Ça peut se justifier. Tu vois ce que je veux dire? Mais effectivement, le fascisme italien des années 20 et 30 et 40 a une définition précise. Il suffit de regarder quelles étaient les attendues politiques, la vision du monde de Benito Mussolini, quelles en étaient les caractéristiques, etc. Donc le fascisme, c'est un militarisme, c'est un machisme, c'est un antisémitisme, c'est un racisme, c'est un étatisme. Voilà, c'est une pensée qui a un certain nombre de caractéristiques dont on peut discuter pour chacune d'entre elles. Mais a priori, on est d'accord, les historiens, etc., sont d'accord pour qualifier le fascisme d'un certain nombre de critères. D'autres penseurs politiques, candidats à des élections, dirigeants politiques dans le monde, etc., proposent ou mettent en œuvre des politiques qui, pour certaines d'entre elles, peuvent cocher pas mal de cases de ce qu'était le fascisme italien de l'époque. À partir de là, on peut se dire que c'est pas absurde de parler de fascisme ou de proto-fascisme ou de post-fascisme ou de néo-fascisme, etc. Voilà. Tout ce que je viens de vous dire là, avec la notion de fascisme, eh ben vous l'appliquez exactement de la même manière pour les autres notions. Libéralisme, socialisme, communisme, nazisme, voilà, tous ces mots-là, eh ben c'est pareil. Ça a une définition historique précise, souvent située géographiquement, et puis ça a une histoire. Ça a des évolutions, ça a des penseurs, ça a des critiques, ça a des pratiques, ça a des expériences. Voilà. Le franquisme de Franco en Espagne, le fascisme de Benito Mussolini, le nazisme de Adolf Hitler, le collaborationnisme de Philippe Pétain, et ainsi de suite. Les fachos sont-ils fascistes? Oui. Non mais c'est comme, enfin tu vois, c'est comme les néo-nazis américains. Les néo-nazis américains, bah écoute, ils font ce qu'ils veulent. Hein, voilà. Mais je rappelle quand même que le nazisme, enfin c'est comme une pensée politique de l'Allemagne, qui quand même pense le pan-germanisme et la victoire de la race germaine, germanique. Tu vois, le mec qui habite dans le Kansas et qui dit moi je suis nazi, t'as envie de lui dire mais... T'es même pas germain, enfin t'habites même pas. Enfin, pourquoi? Qu'est-ce que tu... Enfin, tu fais ce que tu veux, hein, mais je sais pas. Un peu comme si un Français te disait, moi je suis pour le Japon impérial, je suis pour l'impérialisme japonais. Oh. Enfin, très bien, mais enfin bon, l'impérialisme japonais, c'est. Enfin, voilà, je suis au Japon quoi. Enfin, c'est une idée politique qui veut que le Japon. Rayonne dans le monde, bon, le Japon, quoi. Tu vois? Bon, si tu veux. Peut-être un cousin germain, ouais. Est-ce que tu peux tenter d'expliquer pourquoi démagogie est forcément péjoratif alors que populisme, ça dépend de qui dit le mot? Démagogie, un démagogue, c'est une personne qui dit à l'auditoire ce qu'il a envie d'entendre. Quitte à ne pas dire la vérité, quitte à mentir, quitte à grossir les traits, etc. Donc la démagogie est une posture, est une méthode fallacieuse. Voilà. Il y a un côté fallacieux dans la démagogie. Il y a un mensonge, il y a une nuisance qui est ancrée dans la notion de démagogie. Le populisme, c'est une doctrine et ou une stratégie politique qui désigne une certaine manière de lire la société et d'en proposer un dessein politique. Donc effectivement, démagogie et populisme, vous pouvez les lier si vous voulez, ça peut se défendre, ça peut s'argumenter. mais vous pouvez aussi considérer que c'est pas tout à fait la même chose. Donc un populisme peut être démagogue, on peut le voir comme ça, on peut aussi ne pas le voir comme ça. Mais la démagogie n'est pas une doctrine politique, n'est pas une stratégie politique, n'est pas une posture politique. C'est un biais argumentatif. Voilà. Ça te va comme explication? C'est un procédé, un sophisme. Oui, voilà, c'est ça, si vous voulez. Ça peut être une stratégie. Ça peut être une tactique plus qu'une stratégie. En vrai, il faudrait qu'on rentre dans la discussion de savoir qu'est-ce qui est stratégique et qu'est-ce qui est tactique. Bon. Jean Viktorovitch. Demandez à Clément si j'ai raison, tiens, un jour. S'il en pense, Clément. Du coup, en nous le disant, tu fais de la démagogie. Non? Non, parce que si j'étais démagogue, je m'intéresserais à savoir quelle est votre opinion sur le sujet et j'essaierais d'y coller au maximum. Si j'étais démagogue, je vous dirais abonnez-vous. En plus, non. En plus, pas du tout. Viktorovitch est insupportable, je sais pas comment font les gens pour l'écouter sérieusement. Peut-être, éventuellement, que les autres ont des goûts différents des tiens. Peut-être, peut-être. Impossible. Impossible. Comment font les gens pour avoir des goûts différents des miens alors que j'ai raison? Ils sont dans l'erreur, les pauvres. Dès lors, n'hésite pas à les remettre sur le droit chemin, celui de la lumière et de la vérité. Ils sont au courant, les pauvres. Peut-être même ne le savent-ils pas qu'ils ont tort. Terrible. Clément contre Jean qui gagne la bagarre. On a déjà fait une émission Clément contre Jean. Ça s'appelait comment? C'était animé par Jiraya. Le duel, ça s'appelait le duel. Vous tapez le duel sur YouTube. Clément Viktorovitch, Jean Massier. C'était trop marrant. Est-ce que tu connais des politiciens connus pour leur démagogie? Non, parce que alors pareil, la démagogie, encore une fois, on va rentrer dans les goûts et les couleurs. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe une, enfin, est-ce qu'on peut objectiver la démagogie? Trump, ça dépend des discours. Oui, il y a des discours démagogues, il y a des idées démagogues, des propositions démagogues. Est-ce que Trump va dans le sens de la majorité du peuple américain, on peut en discuter. On peut vachement en discuter. Certains diraient Mélenchon, d'autres Le Pen, d'autres Macron, etc. Ouais. C'est quand c'est à vous, c'est lundi. Le populisme n'est-ce pas par essence justement démagogue? Alors, c'est une opinion, on peut en discuter. Les détracteurs du populisme, effectivement, y voient une démagogie. Les contempteurs du populisme refuse la notion de démagogie en disant non, ce n'est pas démagogue que d'opposer le peuple à une élite, de prendre le parti du peuple contre une élite et un système, etc. Ça s'argumente, tu vois. Donc on peut, oui, voilà, ça se défend. Merci, hélicoptère. Non, oui, la démagogie, ça peut être de promettre l'impossible. Démagogie, ce serait, je propose une augmentation de l'ensemble des salaires, une baisse de l'ensemble des impôts et une augmentation de l'ensemble des services publics. Bon, bah. Ça fait plaisir à tout le monde, mais bon. Dans un an, il n'y a plus de SDF dans les rues. Tiens, ça, c'est un bon exemple. Voilà. Dans un an, il n'y a plus de SDF dans les rues. Quand Macron dit ça, c'est démagogue. C'est-à-dire que c'est objectivement pas très réaliste. Et c'est probablement pas très utile. Bon, bah. Enfin, pas très utile, je veux dire, pour l'amélioration du sort des personnes à la rue. Sarko avait dit ça. Non, tout le monde l'a dit, ça. Tout le monde l'a dit. La politique zéro SDF, on nous la vend à chaque fois. Tous les candidats à la présidentielle nous expliquent qu'ils ont une solution pour sortir les gens de la rue. Le fait est que les phénomènes d'exclusion sont plus complexes que simplement du logement, de l'hébergement, etc. Ça y participe, mais... Pourtant, il y a une solution simple, réquisitionner les maisons des riches. Eh ben non, voilà. Eh ben non. C'est plus compliqué que ça. Oui, c'est plus compliqué que ça. Tu te ramènes? Ouais, Antoine, j'arrive, j'arrive. Excuse-moi, pardon. Pardon, pardon. En plus, il est 20h20. J'arrive, j'arrive. Je vous fais un. On va faire un raid, les copains. On va faire un raid chez Samuel Etienne. Samuel Etienne, j'étais avec lui tout à l'heure sur le tournage de C'est à vous. Donc, je vous rappelle que je serai dans l'émission C'est à vous sur France 5 lundi. On a fait le tournage cet après-midi. Raid chez Samuel Etienne. Pour l'hebdo Etienne. Hop là. Passez un bon week-end. Je vais peut-être streamer ce week-end. Merci à vous et c'était cool. Merci d'avoir été là sur Backseat hier et encore merci à toutes les personnes qui ont fait un don sur KissKissBankBank. C'était le plus important, c'est qu'on les gens qui donnaient sur Utip, c'est sur KissKissBankBank maintenant qu'il faut donner. Merci pour votre soutien. Des bisous, c'était cool. À très bientôt. Ciao, bye bye.
8500
bonjour
personnes.
À 8000.
Vous savez ce que ça veut dire, ça?
Non. Bah, ça veut dire que tu vas passer 2 heures à dire bonjour à 8483 personnes que tu n'as pas encore saluées.
Et vous savez, alors du coup, je vais expliquer à Thomas qui est Jean Massier.
Ah bah, oui, Jean Massier, c'est super.
Tu connais bien sûr. Jean Massier vient de faire un raid.
Oh.
Alors ça, c'est un truc super de Twitch.
Tu vas comprendre, c'est intéressant.
RAID, un raid, c'est quoi? À la fin du stream, par exemple, hein, tu vois.
Tu peux faire... que je suis la génération qui appelait les Twix les Raiders. Donc ça part de loin. Quand même.
Tu peux, alors on va dire, tu fais un Twix. Tu peux basculer toute ton audience sur n'importe quelle chaîne sur Twitch.
Il vient chez nous
voilà, c'est, ouais, exactement. Là par exemple, il y avait plus de 2500 personnes qui étaient chez Jean, bien plus en fait, parce que c'est le chiffre approximatif. Et en fait, on a récupéré tous les viewers de Jean. Voilà. Voilà, et là, du
incroyable.
Coup, on est beaucoup plus.
À mon
et,
avis, il veut gratter un samoussage. Hein.
Tu vois, c'est comme si à la fin de ton 20h sur ouais. France 2, Thomas, tu vois, je sais pas, t'as quoi, 4-5 millions de personnes
potentiellement ouais, à peu près, ouais.
Ouais. C'est comme si tu disais, ah, y a un super doc sur, je sais pas, sur M6, par exemple.
Et hop, ouais.
Et
oui, je pense que ça passerait bien, ouais.
Ça passerait, tu ferais une grande carrière.
Non, mais, évidemment, c'est impossible en télévision, ouais. Parce qu'il y a un programme après le tien. Ouais. Mais ici, comme il n'y a pas de programme, et ben certains raident. Donc là, Jean, merci, on a récupéré tous les viewers de Jean.
Et Jean, du coup, il est parti de la piscine, là. Il est passé à la plage.
Bah, lui, il a notre dîner.
Oui.
Bah, lui, il a une vie. Lui, il a des amis, il a des trucs à faire. Donc il ne stream pas après 20h, voilà. Et
ça,
donc,
c'est ça,
Jean, il a fait un stream, je crois, de il est revenu, il est react sur le backseat qu'il a fait hier, je crois.
Qu'est-ce qu'on prépare, ça.
Allez, c'est parti.
Hein, parce que bon, c'est,
sinon, parce que mais, voilà. Nos invités sont venus les mains pleines. Alex. Enfin, certains invités sont venus les mains pleines.
Moi, j'ai acheté un gros brie très bon avec du super pain.
En fait, tout le monde est venu les mains pleines, sauf un invité.
Moi, j'avais acheté des trucs géniaux, je me suis fait braquer dans la rue. C'est un truc de fou, quoi.
Comme en fait c'est un peu une pendaison de crémaillère, parce que c'est la première fois qu'on stream ici. Alors je sais pas si Alex a fait exprès, mais Alex nous a apporté une bouteille de champagne.
Moi je me suis renseigné auprès de gens qui étaient déjà venus, je dis comment ça se passe, on boit des coups et tout, je dis je dois amener quelque chose comme apporter.
Je peux te dire que c'est super apprécié dans le chat.
Et donc c'est apporté. Voilà. Merci le chat. Mais le chat il apprécie alors qu'il va pas pouvoir picoler.
Non, c'est cool.
J'étais dans la rue avec ma bouteille de champagne, un mec avec l'accent belge qui arrive en courant, qui m'arrache tout ça des mains. Enfin,
c'est une très mauvaise excuse. Moi, quand je suis arrivée, j'ai tout de suite trouvé le traiteur en bas de chez Samuel. J'ai ramené du bruit.
Arrêtez de jeter la pierre, il se lève tôt.
Alex,
je n'ai aucune excuse, c'est lamentable.
Alex a apporté du champagne, Marie a dévalisé le traiteur en bas. C'est le moment.
Valérie.
Alors, quand elle est arrivée en haut de l'escalier, je lui ai dit. Merci Valérie, mais ce soir il y a un cuisinier.
Comment il t'a appelé ?
Le plus beau bruit du monde.
Et Marie, c'est parce que tu en es des filles, donc Marie.
Et Marie a apporté plein de petites choses aussi, notamment des petits cadeaux pour les enfants.
Mais oui, du Pokémon.
Et Thomas aussi, mais il s'est fait voler tout par un Belge.
Braqué, là. Thomas a commandé sur Amazon, ça arrive la semaine prochaine.
Demain.